Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre assemblée générale. Et donc je déclare ouverte la séance de l'assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire. En premier lieu, je remercie vivement les actionnaires présents parmi nous aujourd'hui, ainsi que les actionnaires qui ont bien voulu se connecter pour assister à distance à cette assemblée. Sont présents à mes côtés madame Emmanuelle Petrovic, directrice juridique, et monsieur Bernard Delpit, directeur financier du groupe Alstom. Je salue également au premier rang des membres de notre conseil d'administration, à l'exception de Mme Clotilde Delbos, qui vous prie de l'excuser, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Conformément à la loi, il m'incombe maintenant de constituer le bureau. Donc j'appelle aux fonctions de scrutateur Mme Kim Thomassin, représentant la Caisse des dépôts et de placement du Québec, notre premier actionnaire, qui détient 80 930 484 actions. Et M. José Gonzalo, représentant BPI France Investissement, qui détient 34 930 254 actions. Ce sont les deux membres de l'Assemblée qui représentent les deux plus grands nombres de voix ayant accepté cette fonction. Ils sont présents parmi nous et je les en remercie. Je propose, avec l'accord des scrutateurs, de désigner Mme Emmanuelle Petrovic comme secrétaire du bureau de l'Assemblée. Participent également à cette assemblée les commissaires aux comptes de notre société, M. Jean-Luc Barlet, représentant le cabinet Mazars, et M. Édouard Cartier et Cédric Hazard, représentant le cabinet PricewaterhouseCoopers Audits. Et je passe maintenant la parole à Mme Emmanuelle Petrovic.
Merci, Monsieur le Président. L'ordre du jour et les résolutions soumises au vote de la présente assemblée générale mixte figurent dans la brochure de convocation qui est en ligne sur notre site internet et qui a été adressé aux actionnaires. Cet ordre du jour et ses résolutions figurent également dans l'avis de réunion qui a été publié au ballot du 15 mai 2024. Le rapport du conseil d'administration sur les résolutions est inclus dans la brochure de convocation. Les rapports des commissaires aux comptes ont eux aussi été mis à votre disposition et figurent dans la brochure de convocation. Pour ne pas allonger inutilement l'assemblée, je vous proposerai de ne pas donner lecture de l'ordre du jour et de ses rapports. Dans le dossier déposé sur le bureau figurent les documents requis par la loi et dont la liste sera portée au procès-verbal de la présente assemblée, l'ensemble de ces documents ayant été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Ces précisions étant faites, je vous informe que l'assemblée se déroulera de la manière suivante. Notre président présentera une rétrospective de l'exercice 2023-2024 incluant un point sur la stratégie climatique de votre société. Monsieur Bernard Delpit commentera les résultats financiers du groupe au cours de ce même exercice. L'activité des comités du conseil d'administration vous sera ensuite présentée par leur président. Monsieur Yann Delabrière, administrateur référent indépendant, présentera l'activité du comité de nomination et de rémunération, les résolutions portant sur les mandats d'administrateurs, la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, ainsi que les éléments de rémunération de Monsieur Henri Poupard-Lafarge pour l'exercice écoulé. Madame Sylvie Rucard présentera l'activité du comité d'audit et des risques. Madame Sylvie Candé de Beaupuy présentera l'activité du comité pour l'éthique et la conformité. Monsieur Franck Mastio présentera l'activité du comité d'intégration. Enfin, les commissaires aux comptes exposeront leur rapport. À la suite de ces présentations, des échanges auront lieu avec la salle et vous pourrez ainsi poser vos questions oralement ou par écrit grâce au formulaire qui vous a été remis en entrant en séance. Enfin, nous terminerons par la présentation et le vote des résolutions. Comme il est d'usage, pour faciliter le vote et permettre un affichage plus rapide des résultats, un procédé de vote électronique sera utilisé. Ainsi, lors de votre entrée en salle, un boîtier de vote électronique vous a été remis, que je vous invite à conserver à portée de main et que je vous demande de ne pas oublier de remettre aux hôtesses en sortant de salle. Je vous signale que la feuille de présence est actuellement en cours de contrôle et que nous accueillerons les actionnaires jusqu'à 15 heures. À la date d'enregistrement des actions auxquelles au moins un droit de vote est attaché, le capital social de votre société se compose de 461 149 281 actions de 7 euros de nominal chacune. Selon la feuille de présence provisoire, les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté à distance détiennent 290 756 720 actions ayant le droit de vote, soit 63,05 des actions ayant le droit de vote. Le quorum requis pour cette assemblée générale qui se tient sur première convocation est de 20% pour la partie ordinaire et 25% pour la partie extraordinaire. Le quorum de 25% est donc d'ores et déjà atteint et l'Assemblée peut valablement délibérer. Je vous rappelle que la présente Assemblée filmée est diffusée en direct sur le site internet de la Société et je vous informe également qu'un huissier est présent dans la salle. Je redonne la parole au Président.
Merci Emmanuel. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir sur les événements marquants de l'année 2023-2024. Une année dont je vous donne là les principaux indicateurs, une année qui a été intense. Une année qui a été très intense d'un point de vue commercial. Et vous pouvez voir des chiffres de commandes de 18,9 milliards d'euros, c'est-à-dire que on appelle nous un book-to-bill, c'est-à-dire le ratio entre les prises de commandes et les ventes légèrement supérieur à 1, ce qui va nous conduire à une croissance future, puisque notre carnet de commandes, globalement, grâce à cela, a été augmenté. Donc une activité commerciale très présente sur tous les continents et dans toutes nos activités. Une activité intense aussi en termes d'exécution, en termes de livraison de nos projets, livraison de nos produits, de nos solutions. Et vous voyez un chiffre d'affaires qui a augmenté de 9% en organique, 7% facialement, à 17,6 milliards d'euros. C'est évidemment un record pour le groupe. Et ça correspond, par exemple, à une augmentation de 12% du nombre de voitures livrées dans l'année. Une année intense également en termes de transformation. Vous savez, j'y reviendrai, que nous sommes dans un mouvement de transformation, d'intégration de Bombardier depuis 3 ans, qui porte progressivement ses fruits et qui nous a permis d'augmenter significativement notre résultat opérationnel à plus 17% de croissance, un résultat opérationnel de près de 1 milliard d'euros qui est en ligne avec nos attentes. Ça a été également une année intense et plus difficile de ce point de vue-là en termes de génération de trésorerie avec 2 semestres extrêmement contrastés. Un premier semestre avec une génération de trésorerie très négative et qui nous a amené à prendre des mesures correctrices, à la fois opérationnellement, mais également bilanciellement. Et je reviendrai plus tard sur ce que nous avons fait. Donc, au total, sur l'année, une consommation de trésorerie de près de 600 millions d'euros, qui est en ligne avec ce qu'on a annoncé en novembre dernier, mais qui n'est clairement pas en ligne avec ce que nous espérions sur l'ensemble de l'année, au départ de l'année. Alors, je n'oublie pas que Alstom a pour vocation de décarboner la mobilité, que le transport ferroviaire est de très loin le mode de transport le plus décarboné, le plus environnemental, et que nous nous devons de continuer à améliorer notre performance environnementale à la fois à l'intérieur du groupe et dans les produits que nous offrons à nos clients. Alors, à l'intérieur du groupe, c'est ce que nous appelons le scope 1 et 2, qui sont les émissions que nous faisons dans notre propre production. Et vous voyez qu'il y a une baisse de 40% de ces émissions depuis 3 ans, depuis 2021-2022. Donc, des efforts extrêmement importants de baisse des émissions produites par notre propre activité. Il y a aussi, et vous voyez, une baisse de 13% des émissions produites à l'extérieur du périmètre Alstom, si on peut dire, c'est-à-dire que soit par nos fournisseurs, soit par nos clients. Et nos clients, évidemment, c'est largement dû à l'amélioration de la consommation d'énergie des produits que nous offrons à nos clients. Et là aussi, 13% d'amélioration, même si l'énergie utilisée par le train est largement décarbonée, nous devons minimiser cette consommation d'énergie. Un autre signe de cela, c'est ce qu'on appelle l'alignement à la taxonomie. Vous savez, c'est toutes les actions qui est à la part du chiffre d'affaires d'Alstom qui va, disons, dans la bonne direction, qui va favoriser la résolution du défi climatique. Et c'est 60% de notre chiffre d'affaires, ce qui est extrêmement élevé, qui est beaucoup plus élevé que n'importe quelle autre industrie. Enfin, en interne, nous travaillons au développement humain et nous, notamment, avons des objectifs en termes de ce qu'on appelle de diversité, de gender diversity, de part des femmes. Et nous avons augmenté notre pourcentage de 0,8% pour atteindre 24,7%. Tous ces chiffres vous seront précisés dans une seconde partie lorsque nous détaillerons notre stratégie d'une manière générale CSR. Alors revenons un tout petit peu maintenant sur notre marché et sur nos performances de l'année. Alors d'abord, le marché reste extrêmement bon. Le marché ferroviaire est extrêmement bon. Il y a deux principaux facteurs de croissance à notre marché. Le premier, qui est la croissance urbaine et la volonté de la plupart des villes. Vous qui êtes, pour certains d'entre vous, parisiens, le savez bien, la plupart des villes, d'exclure la voiture de la ville pour améliorer la qualité de vie des citoyens des villes. Et cela nécessite, en contrepartie, des investissements dans les transports urbains. C'est vrai à Paris, dans les villes occidentales, mais c'est également vrai, évidemment, dans les pays émergents qui ont des mégalopoles totalement engorgées. Le second facteur de croissance, c'est plus ce qui est les grandes lignes, l'intercité. Et là, il y a un facteur de décarbonation du transport, aussi de changement de mode de vie dans un certain nombre de pays qui tirent la croissance du trafic, notamment en Europe, pas simplement, mais en Europe, aux États-Unis. Et là aussi, vous avez entendu près de chez nous tous les débats sur les manques de TGV, le fait qu'on devrait produire plus de TGV, qu'il y a une demande globalement de transport ferroviaire qui n'est pas servie par les opérateurs aujourd'hui. Et ça tire évidemment l'investissement des opérateurs et l'investissement dans le ferroviaire. C'est vrai, et comme vous voyez dans la transparent, sur l'ensemble des continents, en Europe, en Amérique, en APAC, donc en Asie du Sud-Est essentiellement, en Australie, et également en Afrique Moyen-Orient, avec un grand développement du transport urbain en Afrique Moyen-Orient. Si vous comparez avec l'année dernière, on a un petit peu diminué notre perspective de marché, très légèrement, parce qu'en Inde, il y a un petit ralentissement lié à une fin de cycle d'investissement de Indian Railway, mais globalement, le marché est resté très soutenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, un marché soutenu? Ça nous permet d'avoir une stratégie double, à la fois d'être sélectif dans les commandes que nous prenons, sélectif en termes de produits, en termes de termes et conditions, et en même temps de continuer à croître, c'est-à-dire d'avoir ce que j'ai appelé tout à l'heure un book-to-bill, c'est un ratio entre nos commandes et nos ventes supérieur à 1, ce qui nous permet d'augmenter progressivement notre carnet de commandes. Et c'est parce que nous sommes en face d'un marché très porteur que nous pouvons avoir cette stratégie sélective tout en assurant la croissance du groupe. Alors je vous rappelle des quelques chiffres que la plupart d'entre vous connaissent extrêmement bien, mais quelques chiffres sur Alstom, sur le groupe Alstom. Tout d'abord, nous faisons la moitié de notre activité en matériel roulant, j'allais dire que la moitié. Nous avons d'autres activités, nous avons des activités de signalisation, qui sont le contrôle des trains, le contrôle des réseaux, des activités de service très importantes, l'entretien à long terme, les contrats de maintenance à long terme de nos trains. C'est une activité qui est moins présente en France puisque les opérateurs historiques français font leur propre service, mais qui est très présente dans un grand nombre de pays dans le monde. Et puis des activités de système, vous savez, ces systèmes, c'est lorsque nous livrons une nouvelle ligne, par exemple clé en main, la pose des rails, l'électrification, la signalisation et le matériel roulant. C'est surtout des nouvelles lignes, c'est beaucoup dans les pays émergents, mais pas simplement. Par exemple, en France, la ligne 18 au sud de Paris, c'est une ligne clé en main. La ligne 3 de Toulouse, c'est une ligne clé en main. On en a d'autres en Europe. Alors, quand vous regardez la répartition de notre chiffre d'affaires, donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, la moitié dans le matériel roulant. Nous sommes le leader mondial en dehors de la Chine. Nous sommes le seul acteur à être présent sur tous les continents, à être un vrai acteur global. Nos concurrents sont en général présents dans certaines régions, mais pas dans toutes. Et nous avons donc une part de marché de l'ordre de 30%. Une croissance de 6,5%, un peu inférieure à la croissance du groupe, pas tellement parce qu'on voudrait négliger cette partie-là, la croissance est quand même là, mais parce qu'on met l'accent sur précisément les services et la signalisation, qui nous semble avoir un profil à la fois de risque et de croissance et de génération de cash meilleur. Donc le service, 24% de notre activité, on est de très loin le premier mondial dans le service, notamment parce que nous avons de très loin la première base installée de services de matériel roulant dans le monde, plus de 250 sites, donc c'est une activité qui est évidemment éparpillée dans l'ensemble de nos marchés, 17 000 salariés, 14,3% de croissance, une très très forte croissance ces dernières années, et c'est un axe stratégique majeur pour nous. Nous investissons beaucoup dans la maintenance prédictive, l'optimisation de nos dépôts, etc. La signalisation, une activité par essence digitale, très fortement digitale, dans laquelle il y a trois grands acteurs maintenant. Il y a Siemens, il y a Hitachi, comme vous l'avez peut-être vu, qui a racheté Thales, le français, et puis donc nous-mêmes, une activité sécuritaire, donc forcément avec des barrières à l'entrée assez fortes, hein, puisqu'il s'agit d'assurer à la fois l'efficacité du réseau tout en assurant la sécurité des passagers, évidemment. Donc là aussi, une croissance très forte. Il y a notamment le déploiement de l'ERTMS, qui est le système de signalisation européen qui est en cours en ce moment dans les différents pays européens. Et puis donc, système, c'est aussi quelque chose qu'on aime bien, le système. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de combiner nos solutions standards. Nous sommes maîtres, si je puis dire, des spécifications techniques et des interfaces entre nos différentes solutions. Et nous pensons que le modèle d'Alstom, le modèle d'affaires d'Alstom, nous permet d'être particulièrement efficaces quand nous travaillons avec de la signalisation Alstom, avec des matériels pour journal Alstom, avec de l'électrification Alstom, le tout étant Alstom, le tout étant optimisé. Donc, une croissance organique dans toutes nos activités, mais en particulier dans les deux activités que nous ciblons de manière stratégique, le service et la signalisation. Alors, quelques photos, c'est toujours agréable de voir nos beaux produits. Vous en avez vu quelques-uns dans la vidéo sur les commandes que nous avons prises dans l'année. D'ailleurs, certains, ça a été dans la vidéo, tramway à Philadelphie, quelques options pour le métro fer 19, c'est pas la ligne 19 qui n'existe pas, mais c'est la génération 2019 pour Paris. Des contrats de service, comme je l'ai dit, surtout Angleterre, Australie, qui sont des pays dans lesquels on fait énormément de services. Et puis enfin, des clés en main, alors à Tel Aviv, aux Philippines, donc dans des endroits, encore une fois, très divers. Il y a des clés en main dans tous les continents, en Amérique latine, en Europe, en Asie, etc. Donc une activité commerciale, encore une fois, très fournie l'année dernière. Cette activité commerciale continue et le premier trimestre, on a annoncé quelques commandes, quelques options supplémentaires pour l'Elizabeth Line en Angleterre. C'est un contrat important pour nous parce que vous avez peut-être vu dans la presse que nous avons besoin de charges pour notre usine anglaise et ça permet de charger cette usine-là. Locomotive, j'ai voulu insister un petit peu sur les locomotives. C'était un des produits que nous a apporté Bombardier. Les locomotives européennes, ça faisait longtemps qu'Alstom, avant Bombardier, n'avait pas du tout vendu de locomotives. Grâce à l'apport de Bombardier, nous avons maintenant, nous sommes revenus sur le marché des locomotives de manière importante et nous avons là signé un contrat avec un client italien. Et puis bien sûr le service, alors je vous illustrerai un autre continent, Santo Domingo, pour le service. Donc une activité commerciale qui se continue au premier trimestre et qui va se continuer au cours de l'année. Si on passe maintenant sur le chapitre plus exécution. Alors là aussi, je reviens sur le trajet que nous avons fait, sur le processus que nous menons depuis 3 ans. D'immenses progrès ont été faits dans les 3 dernières années pour améliorer la qualité de notre production. J'ai voulu l'illustrer par 3 indicateurs qui sont absolument clés pour nous. Le premier, c'est évidemment la satisfaction du client. Ça reste notre première boussole. Et nous avons un score, ce qu'on appelle le NPS, qui est le score de satisfaction client, à 8,4, qui est, selon les références de l'industrie, tout à fait positif, et qui est stable, qui s'est amélioré, et qui est stable à ce niveau-là. Deuxième indicateur, et ça ne vous étonnera pas, c'est les délais de livraison. C'est un point qui est souvent mis en avant. Et nous avons largement amélioré ces délais de livraison, puisque nous avons amélioré de 27 points le pourcentage de trains livrés à l'heure pendant ces 3 dernières années, c'est dire l'effort qui a été fait dans les 3 dernières années pour venir satisfaire les plannings des clients. Un autre exemple, un autre indicateur, l'année dernière, nous avons diminué par 2 le stock de voitures en retard. C'est-à-dire, si vous prenez au début de l'année, il y avait un certain nombre de voitures qui auraient dû être livrées, qui avaient été en retard, donc de carnet de voitures en retard, ce stock-là a été diminué par 2 au cours de l'année. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans un processus vraiment de rattrapage de notre retard. Enfin, la qualité, là aussi, d'énormes efforts faits en qualité. La qualité, c'est absolument crucial. La qualité de ce qu'on livre aux clients le premier jour, la qualité visuelle, la qualité technique, la disponibilité des trains. Et nous avons diminué par 4 pendant les 3 dernières années, les problèmes de qualité sur nos trains, les démérites, qu'on appelle les démérites. D'ailleurs, vous en avez un signe tous les jours, puisque lorsque nous livrons des nouveaux trains, des nouveaux programmes, ces nouveaux programmes, aujourd'hui, ne rencontrent pas de difficultés de mise au point, alors que si vous retournez quelques années en arrière, et ceux qui se souviennent de la NAT, des Transiliens, ça a été 3-4 ans de mise au point, alors que le programme avait été déjà en service. MP14, ceux qui prennent la ligne 14, savent que dès le premier jour, les trains ont été en fonctionnement de manière parfaite. Donc, beaucoup d'efforts mis sur la qualité de ce que nous livrons. Grande année de livraison, je l'ai dit, on n'avait jamais livré autant de voitures, 4700 voitures, 12% de plus que l'année dernière, près de 40% de plus que l'année d'intégration, donc de mars 21. Il y a peu d'industries qui ont pu croître de manière aussi significative en un temps de 3 ans, un temps record. Et cette année, ça a été particulièrement vrai en France. Il y a eu énormément de livraisons en France. Alors, ça continue, mais ça a été très vrai jusqu'à cette année. Pourquoi ? Nous voulions absolument être à l'heure des Jeux Olympiques. Et c'est unique, poussé par les Jeux Olympiques, poussé aussi par la volonté de la région Île-de-France de renouveler profondément le parc du matériel. Mais il y a eu cette année énormément d'extensions, on pourrait dire six extensions, six opérations majeures sur des lignes du métro et du tramway et du RER parisien, et qui ont été à l'heure des Jeux Olympiques. Et je peux vous dire que les équipes d'Alstom, notamment de Valenciennes, pas simplement, ont été très très fortement mobilisées pour pouvoir répondre à ces exigences. Puisque vous les connaissez peut-être, la ligne 14 qui va être prolongée de Saint-Denis à Orly, là, le 24 juin, la ligne 11 qui a d'ores et déjà été prolongée, quasiment doublée le 13 juin, la ligne 4 qui a été automatisée et du coup qui avait besoin de matériel supplémentaire. Donc ça, il a fallu livrer plus de 100 rames d'MP14, ça c'est les métro pneus de la génération 2014, pour être à l'heure de ces extensions. Le RER, un tout nouveau RER, vous savez, des tout nouveaux RER, on n'en fait pas, c'est peut-être une fois tous les 15 ans, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement, et nous étions aussi à l'heure pour l'ouverture de la ligne E, donc jusqu'à Nanterre. Et pour ceux qui l'ont pris, c'est vraiment des trains magnifiques qui représentent vraiment un saut de génération par rapport à la génération du RER A que nous avons livré il y a quelques années maintenant. C'est vrai aussi pour les tramways. Deux lignes de tramways, la ligne de tramway le T3 qui a été allongée jusqu'à la porte Dauphine, des tramways classiques. Et puis le T12, qui est dans le sud de Paris, hein, Massy, Palaiseau, Évry, et qui là sont des tram-trains, donc c'est des tramways un peu plus lourds, et là aussi donc deux ouvertures. Donc vraiment, symbole de cette année très forte en livraison, Paris, la région parisienne, les Jeux Olympiques, et nous avons été à l'heure de ces défis. Alors, 2023-2024 a aussi été une année intense, et je l'ai dit dès l'introduction, dans les défis, et les défis bilanciels de génération de trésorerie que nous avons dû traverser. Alors il faut revenir sur cet épisode qui a eu lieu au mois d'octobre-novembre et qui nous a forcés à revoir à court terme un certain nombre de plans et à moyen terme et à long terme de regarder plus profondément ce qui devait être accéléré, amélioré, renforcé pour, c'est-à-dire que d'une part ça ne se reproduise plus, mais en plus nous puissions tirer toutes les leçons de cet épisode. Alors, si on revient un petit peu en arrière, il y a quelques facteurs évidemment externes. La hausse brutale des taux d'intérêt qui a pesé sur nos comptes financiers, qui a aussi fait que les marchés sont devenus très, très rétifs au risque, et ça a créé beaucoup de volatilité d'ailleurs sur les marchés financiers. Une dynamique commerciale qui a été plus faible au premier semestre, qu'elle a été d'ailleurs au second. Ça, c'est des facteurs à la fois externes, puisque c'est la dynamique commerciale globale qui a été un petit peu plus faible, mais bien sûr interne également, parce que c'est le nombre de contrats que nous avons gagnés. Ça a un impact important sur la trésorerie. C'est pas simplement un impact sur notre carnet de commandes, puisque les acomptes clients sont importants pour pouvoir alimenter notre machine et pouvoir alimenter la génération de trésorerie. Et donc, le fait qu'au premier semestre, il y en a eu moins, a bien sûr eu un impact sur notre trésorerie. Un endettement, et vous savez qu'il a été élevé, de ceci depuis l'acquisition de Bombardier. C'est pas anormal que suite à une acquisition, il y a un effort particulier de fait et qu'une partie de cette acquisition soit financée par dette. Mais là, il s'est trouvé que cet endettement est devenu trop élevé dans le nouveau contexte dans lequel on était. Une génération de cash, donc, qui a été trop faible, qui a été très négative, à la fois à cause des activités commerciales, comme je le décrivais tout à l'heure, et à cause d'un certain nombre de problèmes opérationnels, et notamment d'accumulation d'un certain nombre de stocks, qui a fait que la situation fin septembre n'était pas tenable. Enfin, il faut reconnaître qu'il y a eu des faiblesses en termes de planification de la trésorerie, peut-être de communication sur la saisonnalité du cash, des incompréhensions qui nous appartenaient de lever. Alors face à cette situation, qui est une situation très difficile, qu'est-ce que nous avons fait et quel type d'action nous avons prise? Alors il y a une première famille d'actions, il n'y a pas de hiérarchie entre toutes ces actions, il fallait les faire toutes. Première famille d'actions qui est de désentêter le groupe, qui manifestement était trop endetté compte tenu de la situation externe et interne. Alors ce plan de désendettement, je vais y revenir après, a été mis en place, mis en œuvre, il est maintenant quasiment fait, il nous reste plus, les sessions sont signées, il ne nous reste plus qu'à vraiment finir la session, mais c'est un plan de désendettement qui est réalisé. Deuxième chose, le renforcement des contrôles financiers, de manière à avoir une meilleure prévision de la trésorerie et peut-être une communication meilleure autour de celle-là. Le point peut-être le plus fondamental, qui est l'accélération du plan de transformation, et j'y reviendrai, est l'ajout à ce plan de transformation d'un certain nombre d'actions qui permettent d'améliorer la situation de trésorerie. Et puis enfin, en termes de gouvernance, la décision de la part du Conseil de dissocier les rôles de président et de directeur général. Alors, sur le plan de désendettement, Bernard y reviendra après, des cessions, donc les cessions essentiellement d'activités signalisation aux États-Unis, mais également la participation que nous avions dans un acteur russe pour environ 700 millions d'euros, une émission, ce qu'on appelle de quasi-capital, donc d'obligations hybrides pour 750 millions d'euros qui a été réalisée, et enfin l'augmentation de capital de 1 milliard d'euros qui vient d'être terminé. D'ailleurs, je profite de cela pour vous remercier, vous tous, qui nous avez renouvelé votre confiance par la souscription à cette augmentation de capital qui a été un grand succès avec un taux de souscription extrêmement, extrêmement élevé. Donc au total, 2,4 milliards de recettes qui correspond, alors c'est technique, à un désendettement de 2 milliards puisque l'obligation hybride n'est retenue que pour 50% par les agences de rating, mais c'était le plan de désendettement nécessaire pour réparer, comme on le dit, le bilan d'Alstom. Sur l'accélération du plan de transformation, et je voudrais insister, c'est vraiment le cœur du cœur de ce que nous devons maintenant effectuer. Je rappelle donc quel était notre plan de marche, stabilisation des projets, quelque chose qui a été largement fait. Il n'y a plus de problèmes techniques majeurs dans les projets. Là, je parle des projets bombardiers, mais d'ailleurs pas que, mais des projets bombardiers sur lesquels on s'est attaché à résoudre toutes les difficultés techniques. Second temps, ce que j'appelais lean management, qui est en fait la mise à niveau de tous les sites, de tout l'engineering de Bombardier, et aussi des efforts faits, bien sûr, sur l'engineering d'Alstom, de manière à être plus efficace. Donc ça, c'est ce que nous avons fait. C'est pas encore terminé, mais c'est ça qui a amené les résultats en termes de qualité, par exemple, que nous avons, en termes de satisfaction client. C'est ça qui a permis cette amélioration en termes de livraison à l'heure, même si, encore une fois, je considère que nous ne sommes pas du tout au bout du chemin là-dessus. Et puis, nous allons entamer une phase de transformation plus profonde, à la fois sur les produits, en fusionnant beaucoup plus profondément les gammes de produits. Pour l'instant, nous avons bien sûr bénéficié. Nous avons, par exemple, les locomotives dont je parlais sont des locomotives bombardiers, mais dans lesquelles nous mettons des équipements de signalisation Alstom. Donc, nous combinons certains équipements, mais là, nous allons rentrer plus profondément dans les produits et plus profondément dans l'outil industriel, de manière à optimiser notre outil industriel, à avoir des synergies beaucoup plus fortes d'un point de vue coût et d'un point de vue production. Ça, c'était notre plan, et ça continue à être notre plan. Il reste totalement valide, évidemment, aujourd'hui. Au-delà de ça, on s'est dit qu'il faut qu'on accélère un certain nombre de choses. Accélération des plans de réduction de coûts, à la fois des coûts de structure. Alors, ça a été permis précisément par la fin du déploiement de nos process, que maintenant l'ensemble du groupe fonctionne avec les mêmes process, donc nous pouvons être beaucoup plus efficaces d'un point de vue structure. pareil pour les achats indirects, et puis donc accélération de, cette, de la transformation, lancement de la transformation, de l'optimisation industrielle qu'il faut qu'on lance maintenant de manière très volontaire. Deux sujets qui sont très importants pour la génération de trésorerie et notamment pour la gestion des stocks. Une optimisation de la chaîne d'approvisionnement, c'est aujourd'hui un défi majeur pour Alstom, c'est un défi d'ailleurs majeur pour toutes les industries. Si vous écoutez d'autres dirigeants industriels, tous ont le même discours aujourd'hui, qui est de noter une faiblesse de la chaîne d'approvisionnement qui empêche de temps en temps certaines industries à monter en puissance aussi vite qu'ils le voudraient, et qui aussi de temps en temps introduit des disruptions dans la production. Donc la chaîne d'approvisionnement, c'est à la fois quelque chose dont il faut qu'on s'occupe de très près pour être sûr qu'elle ne nous perturbe pas, et c'est aussi quelque chose dont il faut s'occuper de très près pour être sûr que nous ayons une gestion la plus juste à temps, si on peut dire. Chez nous, c'est jamais comme dans l'automobile, c'est pas du juste à temps, mais quand même une gestion la plus fine possible de nos stocks. Et ça, ça passe par une meilleure planification. Alors ça peut paraître évident, mais dans l'activité d'Alstom se percute un très grand nombre de plans, que ça soit l'application du client, qu'est-ce que veut faire le client, quand est-ce que le client veut son matériel roulant, la planification industrielle, la planification de l'engineering, la planification de la chaîne d'approvisionnement, et ces planifications passent leur temps à bouger. Ce n'est pas des choses qui sont statiques comme dans d'autres industries, c'est des choses qui sont extrêmement mouvantes, et donc la nécessité d'investir dans le planning est absolument clé pour l'avenir. Enfin, évidemment, de la discipline dans la soumission des offres, tant la discipline pour les termes de paiement, pour les conditions techniques, pour les conditions aussi, bien évidemment, pénalitaires et autres. Alors que nous pouvons avoir cette discipline, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que nous faisons face à un très bon marché, donc on peut à la fois cibler la croissance et la discipline dans les offres. Au second semestre, nous avons généré 600 millions d'euros de cash, ce qui veut dire que ces actions ont commencé à porter leurs fruits. Évidemment, c'est loin d'être terminé. Évidemment, il va falloir renforcer. Ce n'est pas du tout le bout de la route. Il va falloir renforcer ces actions, continuer à travailler de manière à ce que cette génération de cash soit la plus pérenne et la plus stable possible. Donc, vous voyez, en conclusion, une année qui a été une année très intense. N'oublions pas, et il faut prendre un petit peu de recul pour cela, n'oublions pas le marché qui est très bon, très dynamique, la position d'Alstom qui est très bonne, un vrai leader sur son marché, le seul acteur qui soit réellement global sur son marché, une position de numéro 1 ou numéro 2 dans l'ensemble de nos activités, donc des positions solides, il n'y a pas de faiblesse stratégique particulière. L'année nous permet de ressortir avec une structure financière renforcée grâce à un plan de désendettement qui a été mené à bien, qui a été réalisé, et l'année a été aussi pour nous l'occasion de réaliser, de nous dire qu'il fallait qu'on soit encore plus fort, encore plus rapide à exécuter nos plans de transformation de manière à pouvoir créer de la valeur pour nos clients et également pour nos actionnaires. Donc c'était les quelques mots, merci beaucoup. Maintenant je vais faire appel à Martin Vaujour, puisque notre directrice, directrice de développement durable n'a pas pu se joindre à nous. Et donc c'est Martin Vaujour qui est en charge des relations investisseurs qui va vous présenter la stratégie de développement durable. Merci beaucoup.
Merci Henri. Bonjour à tous. Voilà. Les priorités d'Alstom en matière de développement durable et de responsabilité sociale d'entreprise sont organisées autour de 5 piliers fondamentaux, 4 piliers que nous poursuivons déjà depuis de nombreuses années et un nouveau pilier dans lequel je vais rentrer aujourd'hui. Donc, ces piliers sont présentés sur le transparent. Mobilité net zéro, donc tout ce qui est autour de la stratégie climatique et des émissions de carbone. Les communautés, donc la proximité auprès des communautés locales auprès desquelles nous intervenons, la chaîne de valeur et comment nous intervenons au titre de la RSE auprès de nos fournisseurs et de la supply chain, le soin et l'attention portée au personnel, aux employés, et puis un nouveau pilier que nous avons souhaité faire apparaître de manière claire cette année, c'est la préservation des ressources. conscient donc des tendances mondiales en termes de rareté des ressources, on a souhaité le mettre en évidence. Donc, je vais maintenant vous présenter les progrès réalisés sur chacun de ces piliers et les nouvelles ambitions que nous nous fixons pour les années à venir. Alors, en commençant peut-être par justement ce nouveau pilier de préservation des ressources. Le premier type d'action sur lequel nous intervenons, c'est l'éco-design, l'éco-conception. Il s'agit de continuer à mettre l'accent sur la réduction de l'impact environnemental de nos produits, de nos solutions tout au long du cycle de vie, avec beaucoup d'innovations pour notamment améliorer l'efficacité énergétique de notre matériel roulant et réduire l'intensité des ressources de nos services et de nos solutions de signalisation. 87% de nos solutions sont déjà certifiées éco-conception et nous serons à 100% à la fin de l'année en cours, donc en mars 2025. Ensuite, nous augmentons notre objectif de contenu recyclé dans le nouveau matériel roulant en nous fixant un objectif à 40% de matériel recyclé donc dans nos solutions à horizon 2030. Nous sommes en train d'approcher 25% aujourd'hui. Toujours dans le domaine de l'économie circulaire, des initiatives que nous continuons à pousser, en particulier la récupération des composants électroniques et des matériels d'occasion que nous remettons en vente une fois rénovés grâce à notre place de marché qui s'appelle Station One. Et enfin, nous continuons à augmenter le taux de recyclage dans nos propres sites en visant 85% d'ici 2030. Alors, les collaborateurs, nos employés, partout dans le monde, nous sommes une entreprise mondiale, comme le disait Henri, vraiment présent sur tous les continents, et quatre ambitions pour illustrer notre pilier développement des collaborateurs, des employés. Un, devenir un leader incontestable en termes de diversité, d'inclusion et d'équité. Et comme illustration forte, nous révisons à la hausse notre objectif de femmes ingénieurs et cadres à 32% d'ici 2030 contre 25% aujourd'hui, qui était notre objectif jusqu'à aujourd'hui. Et nous créons un nouvel objectif, c'est 30% de femmes cadres supérieures contre 20% aujourd'hui. Par ailleurs, nous fixons un nouvel objectif, cette fois non pas pour les cadres, mais pour l'ensemble de nos collaborateurs, c'est d'atteindre à terme, donc à horizon 2030, 100% de couverture sociale pour l'ensemble de nos employés dans l'ensemble de nos pays, ce qui sera atteint donc dans quelques années. Nous offrons par ailleurs la possibilité d'apprendre et de développer leurs compétences à l'ensemble de nos salariés, c'est 25 heures par employé par an d'ici à 2030. Donc, toutes ces initiatives ont pour objectif d'augmenter l'engagement de nos collaborateurs. Nous mesurons cet engagement des collaborateurs chaque année autour d'une enquête annuelle d'engagement qui a montré cette année encore une progression de l'engagement de nos collaborateurs et nous continuons et nous souhaitons poursuivre cette dynamique avec un objectif de 72% d'engagement à horizon 2030. Les communautés locales, donc entreprises mondiales, nous sommes présents sur tous les continents, dans de très nombreux pays. Quelques actions concrètes dans ce domaine. Encore une fois, nous relevons la cible du nombre de personnes que nous touchons et aidons grâce à nos actions qui sont organisées au travers de la Fondation Alstom. Et nous relevons donc cet objectif, 400 000 personnes soutenues et aidées par les actions de la Fondation à horizon 2030 contre un peu plus de 300 000 aujourd'hui. Nous donnons également plus de temps à nos employés pour leur permettre de faire du bénévolat autour de ces actions organisées par la Fondation. Et nous avons développé, et nous continuons à développer, nos stratégies de développement durable dans nos solutions, une mobilité plus inclusive, en particulier pour l'accès des fauteuils roulants dans les véhicules. Très important, la chaîne de valeur, évidemment, c'est une part très significative de ce que nous faisons et nous renforçons encore la dynamique RSE auprès de nos fournisseurs et de notre chaîne de fournisseurs avec un certain nombre d'actions. Donc, premièrement, s'assurer que l'ensemble de notre chaîne fournisseur présente un risque faible ou moyen au plus en matière de RSE. Nous avons relevé ici encore l'objectif, 95% de notre base fournisseur qui satisfasse à ces critères à horizon 2030. En parallèle, nous prenons des initiatives proactives pour continuer à former nos fournisseurs autour de toutes ces problématiques RSE. Nous avons des grands fournisseurs, mais aussi des beaucoup plus petits fournisseurs. Et nous accélérons cette initiative qui fonctionne très bien. On est à une centaine de fournisseurs formés aujourd'hui. Nous serons à plus de 1000 à horizon 2030 autour de ces initiatives. Mobilité net zéro, stratégie climatique, empreinte carbone. Évidemment, Alstom, c'est d'abord une solution pour apporter des solutions à la mobilité verte. Plusieurs éléments sur ce sujet. D'abord, ce que nous appelons dans le jargon le scope 1 et 2, c'est-à-dire les émissions de carbone que nous produisons nous-mêmes. Comme vous le voyez, nous avons déjà réalisé, Henri l'a dit tout à l'heure, de grands efforts. Cette année, c'est 22% de réduction de notre scope 1 et 2, 139 kilotonnes de CO2. Mais ce que nous, en tant qu'Alstom, nous produisons est une part très très faible des émissions de carbone, parce que nous ne sommes qu'un assemblier. Et donc, nous continuerons sur le scope 1 et 2, puisque nous avons l'ambition de le réduire de 40% sur une base 2022, avec un certain nombre d'initiatives concrètes, passer à des éclairages LED dans les usines, ou le développement de l'énergie photovoltaïque, le développement de l'électricité durable, avec en particulier des investissements dans des fermes solaires en Espagne. Et ensuite, au-delà du scope 1 et 2, qui ne représente que 1% de l'empreinte carbone totale d'Alstom, nous travaillons sur les deux scopes 3, le scope 3 amont, c'est-à-dire ce qu'on achète, et le scope 3 aval, c'est-à-dire l'utilisation de nos produits vendus. En ce qui concerne ce que nous achetons, donc le scope 3 amont, nous avons également pour ambition de réduire significativement l'intensité de ces émissions, donc de 30% à horizon 2030 par rapport à 2023. Ça consiste à mettre en place un nouvel outil carbone pour les fournisseurs d'Alstom qui sera opérationnel en octobre, qui permet à la fois aux fournisseurs de déclarer leur émission de carbone et de définir les plans d'action et de les suivre et de les accompagner dans ces plans d'action. En ce qui concerne le scope 3 aval, c'est-à-dire les émissions produites par les produits que nous vendons, donc les trains en pratique, chez nos clients, nous nous sommes engagés à réduire, comme vous le voyez, l'intensité carbone de 42% pour le matériel roulant passager et de 35% pour le fret par rapport à une base 2022. Ici, il y a des actions que nous ne pouvons pas, sur lesquelles nous ne pouvons pas vraiment influer, qui sont notamment le mix énergétique des pays dans lesquels nous vendons nos trains. Mais en revanche, il y a des choses que nous faisons et sur lesquelles nous continuons à travailler, et c'est notamment tout ce qui est fait autour de l'efficacité énergétique de nos trains, de nos solutions, et sur lesquelles, évidemment, nous continuons à travailler. Comme illustration peut-être la plus visible de ces efforts-là, évidemment, la très vaste majorité des solutions Alstom sont déjà électriques et donc zéro émission, mais il reste quand même quelques milliers de trains en Europe qui sont au diesel et donc qui vont être remplacés dans les années qui viennent par des solutions propres, par des solutions zéro émission. Et vous voyez deux types de solutions, donc les trains hydrogène pour les longues sections, pour des trajets de plus de 100 km. Donc nous avons déjà, et nous sommes pionniers en la matière, vendu ces solutions en Allemagne, en Italie, en France, et nous sommes maintenant les premiers à avoir une flotte en service. En ce qui concerne des trajets plus courts, nous avons des trains à batterie et qui, eux également, remplacent des trains diesel. Vous voyez sur la photo des solutions pour Dublin en Irlande. Donc je conclurai cette présentation sur notre stratégie de développement durable avec un dernier mot sur la taxonomie européenne. Donc nous avons publié notre performance cette année à 60% d'alignement de nos ventes au titre de la taxonomie européenne, bien au-delà de la moyenne des sociétés industrielles en général et des biens d'équipement en particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci. Nous donnons maintenant la parole à Bernard Delpit pour les résultats financiers.
Mesdames et messieurs les actionnaires d'Alstom, je vais vous présenter donc les éléments de résultats financiers, les principales informations qui vous permettront d'ailleurs de lire les résolutions qui sont proposées à votre validation. Je voudrais commencer par les principaux indicateurs que sont la croissance du chiffre d'affaires et celle de la marge d'exploitation. Vous rappelez évidemment qu'Alstom a doublé de taille avec l'acquisition de Bombardier et le chiffre d'affaires de votre société atteint désormais 17,6 milliards d'euros en progression organique de 9,4%, organique c'est-à-dire retraité des effets de change notamment, donc une progression forte, supérieure à ce qui avait d'ailleurs été prévu, et nous continuons à voir pour la période à venir une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 5% par an, tant pour l'année prochaine, ou l'année en cours plus exactement, que les années à venir. En termes de marge de profitabilité ou de marge d'exploitation, celle-ci est également orientée à la hausse. Comme ça a été indiqué tout à l'heure, la marge d'exploitation ajustée a atteint 997 millions d'euros, soit 5,7% du chiffre d'affaires. Elle n'a pas augmenté aussi vite que la croissance d'Alstom après l'acquisition de Bombardier, compte tenu de la situation de certains contrats et du temps qu'il faut pour dégager les synergies associées à l'acquisition de Bombardier. Pour l'année à venir, nous visons 6,5% de marge ajustée sur le chiffre d'affaires. Et pour le moyen terme, c'est-à-dire mars 2027, nous visons une marge d'exploitation ajustée comprise entre 8 et 10%. Je vous propose, au-delà du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation ajusté, de regarder les autres éléments du compte d'exploitation, dont certains sont dans la résolution, la deuxième résolution qui sera proposée à votre approbation. Sous la marge d'exploitation, nous avons provisionné des frais de restructuration pour 147 millions d'euros cette année, qui seront dépensés les années suivantes, notamment au titre du programme d'efficacité des frais généraux et administratifs et d'un certain nombre d'opérations que nous prévoyons pour adapter l'outil industriel dans un certain nombre de géographies. Sur la ligne de moins 363 millions que vous voyez ici, il s'agit principalement de frais d'intégration, de convergence des systèmes, notamment informatiques, avec Bombardier. Ça fait 3 ans que nous menons ces programmes. Il y a encore une dernière année de ces programmes d'intégration qui permettront à terme de viser de l'ordre de 450 millions d'euros de synergie grâce à la convergence des systèmes d'information. Sur cette ligne de perte de valeur sur actifs et autres, il y a également 2 litiges importants qui ont été provisionnés, dont l'un a d'ailleurs déjà été décaissé, un litige en Turquie et un autre litige aux États-Unis pour lequel nous faisons appel. En ce qui concerne le résultat financier, vous voyez qu'il est ici négatif à hauteur de 242 millions d'euros. Les frais financiers, les dépenses financières en général, ont beaucoup augmenté par rapport à l'année passée, fruit à la fois de l'augmentation des taux d'intérêt et d'un recours plus important à l'endettement, qui est justement l'objet du plan de désendettement que nous avons mené depuis. Ce poste de dépenses est donc amené à baisser dès cette année grâce au plan de désendettement. Enfin, comme nous l'avions indiqué, nous avons cédé la participation de 20% que nous avions dans TMH, producteur russe, cette cession a permis de réaliser une plus-value, laquelle a été réduite par ce qu'on appelle le recyclage des effets de change, puisque cette participation était en rouble alors que nous l'avions en euros dans nos comptes, d'où une quote-part de résultats des sociétés mis en équivalence limitée à 7 millions, moins 7 millions, alors que c'est une ligne qui est d'habitude très profitable. Et donc, au total, le résultat net ajusté d'Alstom pour cette année était de 44 millions, avant ce que nous appelons l'amortissement des écarts d'acquisition, c'est-à-dire la revalorisation d'un certain nombre de postes de bilan au moment de l'acquisition de Bombardier. Et après cet impact purement comptable, le résultat net est de moins 307 millions et c'est celui qui sera porté à votre validation dans le vote de la deuxième résolution. Autre élément très important de la situation financière d'Alstom, sa dette. La dette était de moins 3 milliards au début de l'année dernière. Compte tenu de l'évolution de la trésorerie qui a déjà été mentionnée par Henri au cours du premier semestre, cette dette a atteint, dette nette, 3,4 milliards à la fin du premier semestre dernier. Et grâce à la génération de cash flow, notamment au cours du deuxième semestre, nous l'avons ramenée à près de 3 milliards, là aussi, à la fin de cette année. Donc, c'est l'objet du plan de désendettement que j'évoquerai dans quelques instants. Le fait d'être endetté n'est pas pour autant une difficulté en termes de liquidité de votre société. Nous disposions à la fin de mars 2024 de près de 6,3 milliards de liquidités au titre de différents accords avec des établissements bancaires au-delà du cash dont nous disposons et de l'accès à de la dette court terme sur le marché du papier commercial. J'en profite pour vous indiquer que avant octobre 2026, Alstom n'a pas à rembourser de dette obligataire. Vous avez ici l'échéancier pour les années à venir, ce qui est évidemment un facteur favorable, au-delà du fait que cette dette n'a quasiment pas de coût, puisqu'elle est héritée de la période où les taux d'intérêt étaient presque nuls. Quelques mots du plan de désendettement qui a été donc lancé au mois de novembre dernier pour faire face à la dette d'Alstom. Ce plan prévoyait trois composantes. Une première qui était des cessions d'actifs. Le total a atteint quasiment 700 millions d'euros. Cession de TMH que j'ai déjà évoqué et cession d'un actif aux États-Unis qui était un actif principalement acquis de General Electric il y a plusieurs années. Une cession qui a déjà été signée au mois d'avril et qui devrait être totalement clôturée au cours de l'été prochain. Deuxièmement, nous avons émis ce que nous appelons une obligation hybride, c'est donc du capital permanent qui pourra être remboursé si nous le souhaitons au bout de 5 ans. Cet instrument est considéré pour 50% comme du capital, 50% pour de la dette. Il a un coût annuel de moins de 6%. La demande des investisseurs pour ce produit, qui a été lancé le mois dernier, a été très forte. Cette émission peut être considérée également comme un succès. Enfin, dernière étape du plan de désendettement, l'émission de nouvelles actions, l'augmentation de capital à laquelle vous avez souscrit massivement et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir encaissé près d'un milliard de cash. Ce qui fait qu'au total, ces trois opérations, quand elles seront totalement bouclées, permettront de dégager 2,4 milliards de cash, d'améliorer les ratios d'endettement pour 2 milliards, ce qui a permis à l'agence de notation Moody's de passer de négatif à stable sa perspective sur la situation financière de Alstom, ce qui était notre objectif quand nous avons lancé ce plan, puisque vous savez que le rating est absolument indispensable pour mener à bien nos opérations. Quand nous engageons des opérations commerciales, généralement, quand nous encaissons des acomptes, nous avons besoin d'émettre des garanties, des cautions auprès de nos clients et le faire dans de bonnes conditions en termes de volume accessible et de prix est absolument indispensable à notre activité. Quelques mots des objectifs que nous avons pour cette année et les années suivantes. J'ai déjà parlé de la croissance, au moins égale à 5% chaque année, un ratio entre les prises de commandes et le chiffre d'affaires supérieur à 1, une marge ajustée de 6,5% cette année et de 8 à 10% à partir de mars 2027, une génération de cash positive cette année entre 300 et 500 millions, Et nous avons indiqué que, comme l'année dernière, nous aurions une saisonnalité dans cette génération de cash qui serait légèrement négative, entre 300 et 500 millions au premier semestre, mais positive sur toute l'année, entre 300 et 500 millions. Et l'autre objectif important, qui a notamment été regardé par les marchés financiers, est la génération de cash flow cumulée sur 3 ans, y compris cette année, d'1,5 milliard d'euros. Quelques mots rapides de la troisième résolution soumise à votre approbation. Les comptes de Alstom SA, la société tête de groupe, celle qui est cotée. Nous ne proposerons pas à votre vote de dividende cette année, et donc la totalité du résultat net, 89 millions, sera mis en réserve, de manière là aussi à améliorer la situation bilancielle de la société. Je terminerai en vous décrivant l'évolution du cours de l'action Alstom depuis la dernière Assemblée Générale. La première période entre la précédente Assemblée Générale du 11 juillet 2023 et la fin de l'année 2023 s'est traduite principalement par la très forte baisse du cours de l'action Alstom suite à l'avertissement sur la situation de trésorerie au début du mois d'octobre dernier. Puis ensuite, une évolution depuis le début de l'année 2024 qui a été favorable, même si certaines journées ont été plus erratiques que d'autres. Et depuis le 9 juin, une baisse liée à la situation en France notamment. L'annonce du plan, vous le voyez dans le croquis au milieu de cette présentation, a été très favorablement saluée par les marchés qui ont permis à l'action de bien se tenir et donc de réaliser l'augmentation de capital dans de bonnes conditions. Je vous remercie.
Merci bien, Bernard. J'invite maintenant notre administrateur référent indépendant et président de notre comité de nomination et de rémunération, M. Yann Delabrière, à prendre la parole.
Merci, mesdames et messieurs les actionnaires, bonjour. Je vais donc vous présenter l'activité du comité des nominations et rémunérations. Commençons par les attributions de ce comité, comme d'habitude. Elles sont inchangées. Comme vous le savez, nous centrons nos travaux autour de deux chapitres importants pour l'entreprise. L'organisation de sa gouvernance, du conseil, de la direction générale de l'entreprise de manière générale. Et d'autre part, toutes les questions de rémunération concernant à la fois la rémunération membres de l'équipe dirigeante d'Henri Poupart-Lafarge, mais également de l'ensemble de ces équipes auxquelles s'ajoute la politique générale de l'entreprise en matière d'actionnariat salarié. Je vais donc maintenant rapidement passer à l'activité du groupe pour l'exercice qui vient de s'écouler. Elle s'organise bien entendu autour de ces deux grands chapitres et a été, je dirais, particulièrement fournie compte tenu des circonstances en ce qui concerne ces deux chapitres. D'abord, la gouvernance. Henri vous l'a présenté il y a un instant. Nous avons été amenés au mois d'octobre à revoir l'organisation de la gouvernance de l'entreprise, donc en dissociant les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général exécutif de l'entreprise, de manière, dans les circonstances que Henri vous a présentées il y a un instant, et compte tenu de l'importance des plans d'exécution à mettre en œuvre cet exercice et sur les prochains, de donner à Henri, je dirais, toute la capacité à mener ces plans exécutifs et donc à être dégagé de ses fonctions de président du conseil d'administration. L'activité du comité, de manière plus traditionnelle, s'est orientée autour des exercices d'évaluation, des plans de succession, de la refonte des règlements intérieurs qui est nécessaire compte tenu de la dissociation de la direction de l'entreprise dont je vous parlais il y a un instant, et puis du maintien de contacts intenses avec l'ensemble des actionnaires, et à travers notamment pour les actionnaires institutionnels des roadshows gouvernance que j'ai menés au cours de l'année. En matière de rémunération, l'année a également été importante. Nous avons d'abord, et c'est ce qui vous sera soumis dans les résolutions 11 et 12, revu, compte tenu à nouveau des circonstances qui se présentaient à nous au mois d'octobre, les critères de rémunération de l'exercice, de manière à pouvoir inclure dans les objectifs du directeur général, mais également de l'ensemble des équipes d'Alstom, je dirais les incitations au plan de redressement du cash que Bernard vous a présenté il y a quelques instants. De manière plus traditionnelle, et donc, bien entendu, dans la mesure où ces éléments nouveaux de l'exercice sont des ajouts à la politique de rémunération que vous aviez votée l'année dernière, ils font l'objet de deux résolutions que vous aurez à voter de manière à ratifier ces changements. Enfin, de manière plus traditionnelle, nous avons revu l'ensemble des politiques de rémunération, cette fois-ci pour le futur du directeur général, du président du conseil d'administration, des membres du conseil d'administration, qui vous seront donc également soumis sur trois résolutions. Et enfin, résultat de ces politiques rémunération pour la rémunération d'Henri sur l'exercice écoulé 23-24. Alors, structure du gouvernement d'entreprise, je viens d'en parler il y a un instant, je n'y reviens pas, donc les raisons qui nous ont poussés à examiner à nouveau la meilleure structure pour l'entreprise et aux résultats auxquels elles ont abouti. Le Conseil a immédiatement engagé la sélection du nouveau président de l'entreprise en recherchant une personnalité qui est une expérience industrielle plus que confirmée, qui est, je dirais, une expérience exécutive de direction générale d'entreprise couronnée de succès, qui est également une expérience fournie de gouvernance d'entreprise, de fonctionnement de conseil d'administration, et enfin qui est, je dirais, une expérience également confirmée en matière de transformation d'entreprise et notamment d'intégration de grosses acquisitions qui, comme vous le savez, tout cela caractérise la phase dans laquelle se trouve actuellement engagé Alstom. Donc, j'y reviendrai dans un instant. Ces critères nous ont amenés à demander à M. Philippe Petit-Collin de rejoindre le Conseil. Et j'y reviendrai dans un instant. C'est l'objet de deux des résolutions, d'ailleurs, qui vous seront soumises dans un instant. Venons précisément au renouvellement des mandats qui font l'objet de cette Assemblée générale et donc de la composition de votre Conseil d'administration. Vient à renouvellement le mandat d'administrateur de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, actionnaire Alstom et premier actionnaire d'Alstom, comme Henri vous l'a rappelé en introduction à ce meeting, représenté par Kim Thomassin, qui est aujourd'hui bien entendu parmi nous, et c'est donc le première résolution qui vous sera soumise au titre de la composition du Conseil d'administration. Viennent ensuite deux résolutions concernant Philippe Petit-Collin. Avec l'accord de Philippe a rejoint le Conseil au mois de mars 2024, avec un siège qui était devenu vacant. Donc vous aurez d'abord à ratifier cette cooptation qui est intervenue en mars 2024 et enfin, en deuxième élément, nommer à nouveau Philippe pour un mandat complet de 4 ans, étant bien entendu que, comme déjà annoncé, si vous acceptez ces résolutions, l'intention du Conseil est de nommer Philippe son président immédiatement à l'issue de cette Assemblée générale. Voilà, ceci étant dit, Philippe, je te passe la parole pour adresser l'ensemble de nos actionnaires.
C'est difficile de prendre la parole après toi, après tout ce que tu as dit sur moi, c'est beaucoup trop ce qu'il a dit. Je me présente à vous, donc je suis Philippe Petit-Collin, sans remonter très très loin, disons, mettons jusqu'à l'an 2000, En 2000, j'ai été nommé directeur général du groupe Labinal, faisait partie du groupe Snecma. Labinal, c'est un grand de la distribution électrique dans les avions. Dans un avion, vous avez entre 100 et 300 km de câbles électriques, donc c'est quand même quelque chose de très important. En 2005, le groupe Snecma a fusionné avec le groupe Sagem, que vous devez également connaître, pour former Safran. En 2006, on m'a nommé PDG de Snecma, donc les moteurs du groupe Safran, moteurs à la fois commerciaux, militaires, Rafale, moteurs de fusée pour la fusée Ariane. Mais c'est surtout dans les moteurs commerciaux que Snecma est connu, avec une JV avec le groupe General Electric. Nous sommes le premier fabricant de moteurs commerciaux pour Airbus, pour Boeing. En 2010, j'ai lancé le moteur LEAP, qui est le dernier moteur qui permet de baisser la consommation d'une quinzaine de pourcents, donc chez Airbus, chez Boeing, mais également chez les Chinois, qui se sont lancés dans l'aviation commerciale à ce moment-là. Je vous rassure, il y a 5 avions qui volent hein, après 15 ans, donc c'est quand même pas ça énorme, et c'est pas avec ça qu'on gagne beaucoup d'argent. En 2011, le groupe Safran m'a nommé président de Sagem et j'ai pris la direction générale de Sagem Défense, donc toutes les activités défense, que ce soit des systèmes électroniques ou que ce soit des armes ou des munitions. Un an et demi après, on m'a nommé président directeur général de Sagem Sécurité. Donc là, on tape dans la biométrie, on tape dans les cartes de paiement, on fait des documents tels que les cartes d'identité, les passeports, tout ce qui tourne autour de la biométrie et de l'identité. En 2015, on m'a nommé directeur général du groupe Safran, fonction que j'ai menée jusqu'à la fin de 2020, donc 6 ans à la direction générale du groupe Safran, ce que j'ai fait. Dans ces 6 ans, entre autres, j'ai vendu la sécurité que j'avais dirigée parce qu'elle était vraiment très loin du reste des autres marchés. Et j'ai permis d'acheter la société Zodiac, société de 35 000 personnes, donc assez proche de ce qu'on va retrouver chez Alstom avec BT, donc la partie Bombardier. C'est une société qui était très internationale. Et à la fin 2019, donc juste avant l'arrivée du Covid, nous étions 100 000 personnes chez Safran pour un chiffre d'affaires de 23-24 milliards d'euros. Donc également assez proche des chiffres qui vous ont été présentés par Bernard et par Henri. C'est une activité que j'ai tenue donc jusqu'à fin 2020 et en début 2021, on m'a nommé président de KNDS. Alors KNDS, c'est un mot un peu barbare. C'est la fusion entre deux sociétés, une société française qui s'appelle Nextergiat, que vous connaissez peut-être, 5000 personnes, et une société allemande, Krauss-Maffei-Wegmann, pour former le premier fabricant d'équipements et de véhicules d'armement terrestre. Donc on fabrique des chars, le char Leclerc en France, le char Léopard dont on entend beaucoup parler actuellement avec ce qui se passe en Ukraine, en Allemagne. On fabrique le canon César, on fabrique des munitions, bien entendu. Et donc, on est le premier européen dans ce domaine. Alors là, je n'ai que, en tant que président du conseil d'administration de KNDS, je n'ai que 2 actionnaires. Donc, c'est beaucoup plus petit quand on fait nager. J'ai l'État français et une famille allemande. Mais je tiens quand même à signaler que même avec 2 actionnaires, ce n'est pas obligatoirement beaucoup plus facile de présider une société comme ça, surtout quand on a l'État français qui est un des deux actionnaires. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'ai une expérience industrielle, j'ai une expérience dans les projets long terme, quand on développe un train d'atterrissage, quand on développe un moteur d'avion, c'est 5-6 ans. Donc assez comparable à ce qu'on va retrouver ici. J'ai l'expérience, bien entendu, de paiement échelonné dans la défense. Ça se passe comme dans le domaine du ferroviaire et j'ai une expérience également dans les fusions, puisque nous avons réalisé très vite la fusion de la société Zodiac au sein du groupe Safran. Quelques mots pour finir sur Alstom, que je découvre depuis quelques semaines, C'est une très belle société. Très belle société qui a eu une crise de croissance. Croissance externe, BTS, on ne peut pas passer à travers. J'ai rencontré des personnels. Tous les personnels que j'ai rencontrés sont talentueux, motivés, ce qui donne beaucoup, beaucoup d'espérance pour le futur. Les clients font confiance à Alstom. 90 milliards de carnets de commandes, c'est extraordinaire. Et j'ai été également surpris, et agréablement surpris d'ailleurs, par l'innovation, le niveau d'innovation au sein de ce groupe. Donc je suis ravi, et si vous me faites l'honneur, bien entendu, de me nommer au sein de ce conseil d'administration et ensuite à la présidence de ce conseil, je ferai à la place qui sera la mienne, bien entendu, tout ce que je pourrai pour rendre votre société, notre société, plus compétitive et plus performante. Je vous remercie.
Merci Philippe. Pour revenir dans le fil de l'exposé, la dernière résolution qui vous sera soumise sur la composition du Conseil est de confier un nouveau mandat de 4 ans à M. Jay Walder, qui nous a rejoint maintenant depuis plusieurs années et qui a déjà eu la possibilité de se présenter à vous et que nous remercions de tout ce qu'il apporte au Conseil de connaissances profondes de notre industrie. Voilà donc les résolutions concernant le Conseil. À l'issue de ces évolutions, si vous les acceptez, le Conseil sera composé de 12 membres représentant 7 nationalités, avec une mixité homme-femme de 50-50, un très bel équilibre, et un taux d'indépendance des administrateurs de 80%. Venons-en maintenant aux résolutions concernant les rémunérations. Comme vous le voyez, elles sont également importantes, puisque 7 résolutions vous sont soumises. Je vais les prendre les unes après les autres, donc je passe rapidement sur ce slide de manière à ne pas faire double emploi. Première résolution, la résolution numéro 11. J'ai été amené il y a quelques instants à vous dire que nous avons, compte tenu des circonstances, modifié les critères de rémunération du directeur général et d'ailleurs de l'ensemble de ses équipes pour l'année qui vient de s'écouler, de manière à introduire un critère totalement centré sur le rétablissement du niveau de cash flow libre que Bernard Delpit vous a commenté il y a un instant. Vous voyez donc ce qui a été décidé par le Conseil, si ce redressement n'intervenait pas, de supprimer complètement toutes les rémunérations variables. S'il arrivait à un niveau intermédiaire, de réduire de 50% les rémunérations variables de l'ensemble de l'entreprise. Et puis, si on faisait, je dirais, la performance ultime de rétablir un cash flow positif, bien entendu, de maintenir ces rémunérations variables. Nous le verrons dans un instant. Nous nous situons, en fait, dans le second cas. Donc, comme vous le verrez, un effort énorme a été fait au cours du second semestre pour avoir une génération de cash flow significativement positif au cours du second semestre, mais malheureusement pas assez pour rejoindre les objectifs initiaux. C'est donc dans le second cas, avec une réduction de 50% des rémunérations variables, que nous situons, et c'est ce qui vous sera présenté dans un instant en élément de synthèse de la rémunération pour l'exercice passé de Henri Poupart-Lafarge. Nous avons fait le même ajustement en ce qui concerne le conseil d'administration lui-même, dans un sentiment d'abord que nous partagions des responsabilités avec la direction générale et que d'autre part nous voulions être solidaires de la direction générale. Et donc, comme vous le savez, les conseils d'administration n'ont pas de rémunération variable. C'est donc sur la rémunération fixe du conseil que nous avons appliquer ce critère, ou plus exactement sur la partie de la rémunération fixe qui n'était pas encore payée, puisque la rémunération sont payées en 2 semestres pour le Conseil, et c'est donc la rémunération du second semestre à laquelle a été appliqué le même critère avec le même résultat, c'est-à-dire que la rémunération du conseil a été diminuée de 50% sur le second semestre de l'exercice. Donc ceci sera également proposé à votre approbation par la résolution numéro 12. Résolution numéro 13, cette fois-ci nous nous situons dans le futur, dans la politique de rémunération applicable au directeur général. Nous avons dans l'ensemble reconduit la politique de rémunération des précédents exercices que vous avez examiné à de nombreuses reprises, que nous avons fait évoluer progressivement. Nous l'avons largement reconduit, néanmoins en ajoutant deux modifications. La première consiste à recentrer les éléments de rémunération variable sur la performance financière de l'entreprise et notamment sur la génération de cash flow. Donc les éléments collectifs, qui sont essentiellement des éléments financiers, verront leur importance monter de 60 à 80% de la rémunération variable. La deuxième modification, qui en est à peine une, est de reconduire sur l'exercice 24-25 le même type de mécanisme de, je dirais, seuil de cash flow minimum à atteindre que nous avions introduit dans le courant de l'exercice 23-24. Voilà, donc ces deux modifications, qui sont plus des amodiations que des modifications profondes, mais sont la résultante, malheureusement, de l'expérience que nous avons vécue au cours de l'exercice 23-24. Et pour être sûr, comme Henri et Bernard l'ont souligné tour à tour, que nous sortions des difficultés que nous avons eu à rencontrer. Ceci résulte donc dans un ensemble de politiques de rémunération que je ne vais pas commenter ligne à ligne, puisqu'encore une fois, ils sont très largement à la reconduction des années précédentes et qui sont détaillés le document universel d'enregistrement que vous avez pu parcourir. Je viens maintenant à la résolution numéro 14 qui concerne donc la rémunération du président du conseil d'administration. Elle est totalement standard, si je puis exprimer ce titre, standard au sens qu'elle ne prévoit qu'une rémunération fixe, comme c'est d'usage, et que d'autre part, le montant que nous proposons est, je dirais, celui qui se situe dans la moyenne des sociétés industrielles comparables française et européenne, donc qui n'appelle pas de commentaires particuliers de ma part. En ce qui concerne les rémunérations des membres du conseil d'administration, résolution numéro 15, là aussi pas de changement, nous retenons exactement les mêmes montants que ceux que vous connaissez depuis maintenant plusieurs années. Enfin, sur les politiques de rémunération, nous venons maintenant à la ratification des politiques des montants de rémunération sur l'exercice 23-24. Donc, pour le conseil d'administration, je vous l'ai déjà indiqué, donc une rémunération qui a été diminuée sur le second semestre, donc qui se situe au total de l'année 23-24 à 678 000 euros, donc nettement en dessous, comme vous le voyez sur cette présentation, de l'année précédente, puisque nous n'avons consommé qu'un tout petit peu plus de 50% de l'enveloppe totale autorisée par les actionnaires, alors que c'était 70% sur l'exercice précédent. Résolution concernant la rémunération du président de l'État général pour l'exercice passé. Là également, je vous ai largement commenté les éléments qui l'ont déterminé. Il résulte en une rémunération variable qui se situe à 418 000 euros. Comme vous le voyez, les objectifs ont été remplis à 88%, et notamment, bien entendu, l'objectif de cash flow n'a pas été atteint, ce qui explique largement qu'on se situe très sensiblement en dessous de 100%, mais en plus, nous avons appliqué cet ajustement de 50%, qui donc amène à ce montant de 418 000 euros. Je crois maintenant que j'en ai fini. Et Henri, je te rends la parole pour les présentations suivantes.
Merci Yann, merci beaucoup. J'invite maintenant la présidente de notre comité d'audit et des risques, Madame Sylvie Rucard, à prendre la parole.
Mesdames, Messieurs les actionnaires, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présider le comité d'audit et des risques du groupe depuis le 30 juillet 2018. Notre comité d'audit et des risques est actuellement composé de 4 membres, dont 3 sont indépendants, y compris moi-même, au sens du code AFEP-MEDEF. À noter simplement qu'un nouveau membre indépendant avait été noté en septembre 2023, ce qui a donc ainsi porté le nombre de membres de 3 à 4, le nombre actuel, et que le taux de membres indépendants, qui était donc de 66%, est passé à 75%. Notre rôle est fixé par le règlement intérieur. Il est d'assister le conseil d'administration dans le suivi des questions relative à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et des informations en matière de durabilité. Nous veillons en particulier à la qualité des informations financières et des informations en matière de durabilité telles qu'elles sont publiées. Nous veillons également à l'efficacité des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que de l'audit interne. Et enfin, nous veillons au suivi du contrôle légal des comptes tel qu'il est effectué par les commissaires aux comptes. En matière de fonctionnement, d'organisation, le vice-président exécutif et directeur financier, Bernard Delpit, donc, le directeur de l'audit, le directeur du contrôle de gestion, le directeur comptable, sont invités permanents au comité d'audit. D'autres dirigeants clés participent de manière ponctuelle en fonction des sujets abordés, et plus particulièrement la directrice juridique, donc Emmanuel Petrovitch ici présente, pour une revue régulière des procédures en cours et de leur impact financier, et participe également sur les sujets spécifiques RSE, la directrice du développement durable. Les commissaires aux comptes participent à chaque réunion, nous présentent leurs conclusions à l'issue de leurs travaux. Je les rencontre personnellement pour m'assurer de leur indépendance et veiller à la pertinence de nos échanges. J'ajouterai qu'un point systématique avec les membres du comité d'audit, hors la présence du management, se tient à l'issue de chaque réunion du Conseil avec les commissaires aux comptes. Notre règlement intérieur a été modifié le 12 mars 2024, en conséquence de la transposition de la directive européenne sur l'information extra-financière, transposition qui a eu lieu en décembre 23, pour préciser notamment les missions de revue des informations en matière de durabilité et la coordination avec les autres comités du Conseil. Au cours de l'exercice écoulé, nous avons tenu 5 réunions. La participation à ces réunions a été de 100%. Enfin, le rapport d'activité détaillé du comité d'audit figure en page 240 du document d'enregistrement universel de l'exercice. Si je viens de façon un peu plus détaillée sur les activités spécifiques que nous avons conduites au cours de cette année, le comité a tout d'abord examiner sur les sujets de comptabilité et de finances les comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2024 ainsi que les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2023. Sur la base des présentations réalisées par la direction générale et les commissaires aux comptes, le comité s'est assuré de la pertinence des méthodes et traitements comptables qui ont été utilisés dans les états financiers. Le comité a également revu le budget de l'exercice 24-25 et le volet financier du plan stratégique à 3 ans qui porte sur la période 2024-2027. En matière d'information, en matière de durabilité, La directrice du développement durable et de la RSE nous a présenté la méthodologie retenue par la taxonomie, les résultats obtenus, ainsi que l'avancement du projet de mise en œuvre de la directive dite CSRD. Nous avons également revu la méthodologie d'évaluation de double matérialité, dont vous a parlé Martin Vaujour tout à l'heure, et le projet de matrice consolidée des impacts, risques et opportunités. En matière de risques, comme chaque année, le comité d'audit a examiné les principaux risques auxquels le groupe est confronté, le suivi de l'ensemble des mécanismes de gestion des risques qui existent dans l'entreprise a été effectué afin que nous nous assurions de leur adéquation aux besoins du groupe. Les mécanismes de gestion et d'atténuation du risque de change ont fait l'objet d'une revue approfondie et les éléments clés de la politique fiscale du groupe ont également été revus et approuvés par le comité. Nous avons, et je pense que ça vous semblera naturel compte tenu de tout ce qui a déjà été dit sur les résultats et sur le cash, tout au long de cet exercice, porté une attention particulière sur les sujets de génération de cash, de génération de flux de trésorerie. Plusieurs revues spécifiques détaillées ont été conduites, avec en particulier en septembre 2023 une revue du projet Cash Performance qui avait été lancée dès mars 2023 et qui a été largement renforcée et accélérée depuis octobre 2023. En matière d'audit et de contrôle interne, le directeur de l'audit interne nous a présenté ses rapports semestriels et annuels d'activité qui reprennent les principaux enseignements du programme déployé au cours de l'année, ainsi que le suivi de l'avancement des actions correctives qui découlent des audits réalisés. Le plan d'audit interne pour l'exercice 24-25 a été présenté au comité d'audit. Le comité a également revu les procédures de contrôle interne mises en œuvre au sein du groupe, l'évaluation du contrôle interne effectuée par la société au travers des questionnaires annuels d'évaluation. Il a pris connaissance des résultats détaillés de la campagne annuelle de contrôle interne, des plans d'action entrepris pour améliorer le contrôle interne et le contrôle des risques, et éliminer ainsi les faiblesses et assurer la conformité avec les réglementations applicables. Les résultats des divers plans d'action ont été présentés et discutés lors de nos comités. Le comité a également examiné le montant des honoraires versés au comité au compte, s'est assuré de leur indépendance, de la conformité des missions effectuées avec le règlement qui régisse les relations entre la société et les commissaires au compte. Enfin, à l'issue de l'ensemble de ces réunions, le comité a rendu compte de ses travaux au conseil d'administration, lui a communiqué ses commentaires sur les questions essentielles, ainsi que ses propositions d'amélioration. Je vous remercie, mesdames, messieurs les actionnaires et monsieur le président, de votre attention.
Merci, merci Sylvie. Et j'invite maintenant la présidente de notre comité pour l'éthique et la conformité, madame Sylvie Candé de Beaupuis, à prendre la parole.
Mesdames, messieurs les actionnaires, monsieur le président, j'ai l'honneur d'assurer la présidence du comité pour l'éthique et la conformité du groupe depuis 2017. Notre comité est composé de 3 membres, administrateurs indépendants au sens du code AFEP-MEDEF. Voilà. Le comité examine et suit les politiques éthiques et conformité d'Alstom, ainsi que les dispositifs et procédures en place pour les mettre en œuvre, et fait des recommandations au conseil d'administration sur ces sujets. Dans le cadre de ses attributions actuelles, telles qu'elles résultent du règlement intérieur qui a été également mis à jour cette année, en pratique, le comité doit tout au long de l'année veiller au respect de plusieurs de ses attributions dont les principales sont affichées sur le visuel qui vous est présenté. Et sans les reprendre toutes, je n'en citerai que quelques-unes, telles que la révision ponctuelle, quand cela est nécessaire, des valeurs fondamentales du groupe pour les adapter aux circonstances et à l'évolution des pratiques du commerce, l'examen périodique de l'organisation de la fonction éthique et conformité et, le cas échéant, l'émission de recommandations, la révision périodique de la cartographie des risques en matière d'éthique et conformité et l'examen des risques ainsi identifiés, leur évolution et leur gestion, et l'examen des relations avec les parties prenantes sur toutes questions relatives à l'éthique ainsi que les politiques relatives aux droits humains. Si on en vient maintenant à l'activité plus spécifique du comité, telle qu'elle a été menée au cours de l'exercice, toutes les informations sur le sujet sont détaillées dans le rapport d'activité qui est mis à votre disposition et qui figure à la page, aux pages 125 et 126 du document d'enregistrement universel de l'exercice. En substance, au cours du dernier exercice, le comité a tenu les objectifs et a revu les objectifs et les indicateurs de performance éthique et conformité du groupe. Ainsi, nous avons suivi l'état de la mise en œuvre du programme d'intégrité du groupe, incluant le nouveau code d'éthique 2020, les instructions du groupe, mais aussi les actions de formation et de sensibilisation de tous les collaborateurs, le déploiement de ressources supplémentaires au sein du département éthique et conformité du groupe, compte tenu notamment de l'acquisition de Bombardier Transport, sans omettre l'examen du plan d'intégration de Bombardier Transport au regard de l'éthique et de la conformité, le suivi et de l'état de la mise en œuvre de ce plan et de sa finalisation. Suite aux résultats du sixième audit de la norme système du management anticorruption, lesquels résultats ont été également revus à l'occasion d'une session du comité, le renouvellement de la certification de l'ensemble du groupe, y compris le périmètre Bombardier Transport, a été obtenu jusqu'en 2026. Le comité a revu également les politiques sanctions et les initiatives promouvant la culture éthique et du speak-up du groupe. Et bien sûr, nous avons été tenus régulièrement informés de l'ensemble des procédures et enquêtes passées ou en cours, lesquelles sont également décrites dans le document d'enregistrement universel. Au cours de l'exercice 2023-2024, nos travaux ont été réalisés au cours de 3 réunions avec un taux de participation de 88%. Et Mesdames Emmanuelle Petrovic, directrice juridique, et Inge Deventer, directrice de l'éthique et de la conformité, ont participé à toutes nos délibérations. Et à l'issue de ces réunions, nous avons rendu compte de nos travaux au conseil d'administration. Nous avons communiqué nos commentaires. Et quand cela s'est avéré nécessaire, nous avons formulé des propositions d'amélioration. Mesdames, Messieurs les actionnaires, Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention.
Merci, merci Sylvie. J'invite désormais le Président de notre comité d'intégration, Monsieur Franck Mastiot, à prendre la parole.
Mesdames, Messieurs les actionnaires, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présider le comité d'intégration du groupe depuis le 29 2021. Notre comité d'intégration est composé de 4 membres, dont 2 sont indépendants au sein du code AFEP-MEDEF. L'objectif principal du comité d'intégration, qui a été créé dans le cadre de l'acquisition de Bombardier Transport, est précisément de soutenir, faciliter et superviser le processus d'intégration de Bombardier Transport au sein d'Alstom et de rendre compte de son avancement à des fins d'assurance au conseil d'administration d'Alstom. De plus, le comité d'intégration agit comme une instance permettant au président-directeur général d'appréhender les sujets en relation avec l'intégration des deux sociétés dont il évaluera les impacts à court, moyen et long terme. Le comité a été initialement créé pour une durée de 2 ans, mais sa durée a été étendue pour 2 années supplémentaires jusqu'en janvier 2025. Au cours de l'exercice écoulé, le comité s'est réuni à 2 reprises avec un taux de participation de 100%. Par ailleurs, une présentation a été partagée à distance avec les membres du comité. Le comité d'intégration a revu l'état d'avancement et les dernières évolutions de l'intégration tout au long de l'année sur la base des sujets définis et cohérents tels que les déploiements de l'organisation opérationnelle cible, les plans de synergie et les progrès régionaux liés à l'intégration. Le comité suit trois priorités de long terme. 1. La conduite du changement et sa mise en œuvre locale. 2. La convergence globale des processus et la mise en œuvre de la feuille de route informatique. Et 3. La finalisation de la stabilisation du portefeuille de projet. De plus, cette année, le principal point d'attention du comité a été le suivi du plan d'action issu de l'évaluation externe réalisée au cours des précédents exercices fiscaux. Après plus de 2 ans d'intégration, les progrès et les résultats sont tangibles. En matière de capital humain et de conduite du changement, l'enquête sur l'engagement des employés montre des progrès significatifs à poursuivre dans certaines régions. Le modèle opérationnel cible est atteint et fait l'objet d'une démarche d'amélioration continue. Les processus clés sont convergés et en cours de déploiement et la convergence informatique s'élève désormais à 88%. Enfin, la dynamique commerciale se confirme avec un impact positif de synergie sur l'EBIT à juste de 260 millions d'euros pour l'exercice 2023-2024. La tendance positive observée dans les KPI d'intégration doivent désormais être suivies d'effets de point de vue des indicateurs financiers. En résumé, le déploiement du plan initial d'intégration est sur la bonne voie. Piloté et adapté selon les besoins de chaque organisation, région, fonction et ligne de produit pour répondre à ces enjeux. L'évaluation externe a confirmé que l'intégration correspond aux plus hauts standards et que les actions sont sur la bonne voie. Le comité d'intégration a régulièrement rendu compte de ses travaux au conseil d'administration et lui a communiqué ses commentaires sur les questions essentielles ainsi que ses propositions d'amélioration. Mesdames, Messieurs les actionnaires, Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention.
Merci Franck et merci Franck encore une fois de faire l'effort de parler en français. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole au commissaire aux comptes, représenté par M. Cédric Azer du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et de présenter leur rapport.
Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les actionnaires, bonjour. Au nom du Collège des commissaires aux comptes, PricewaterhouseCoopers et Mazars, j'ai l'honneur de vous rendre compte de notre mission au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024. Nos rapports sur les comptes annuels et consolidés, notre rapport sur les conventions réglementées, figurent dans le document d'enregistrement universel pour l'exercice 23-24, ainsi que dans la brochure de convocation à la présente assemblée, et les numéros de page correspondants sont affichés à l'écran. Je vous propose, comme le veut l'usage de cette assemblée, de vous en résumer les principaux éléments. Nous vous rappelons tout d'abord que nos cabinets, PwC et Mazars, et leur réseau assurent le contrôle des comptes de l'ensemble des filiales significatives du groupe. Concernant nos rapports sur les comptes, l'objectif de notre mission est d'obtenir une assurance raisonnable sur la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes, et que ceux-ci ne comportent pas d'anomalies significatives. Pour ce faire, nous avons mis en œuvre une approche d'audit qui tient compte des principaux risques encourus, de l'environnement économique dans lequel évolue le groupe, ainsi que des mouvements de périmètre. Notre approche d'audit est adaptée aux activités des différents métiers du groupe, ainsi qu'à son organisation. Nous nous attachons à vérifier tant les opérations courantes que les événements particuliers et avons mis en œuvre nos diligences conformément aux normes professionnelles applicables en France. Enfin, nos conclusions ont été partagées avec les directions financières des entités, des régions et la direction financière du groupe à l'occasion d'échanges réguliers, ainsi qu'avec la direction générale. Nous avons également rendu compte de l'organisation de nos travaux et de nos conclusions au comité d'audit, ainsi qu'au conseil d'administration de votre société. Conformément aux dispositions de la réglementation européenne, nos rapports portent à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs au risque d'anomalies significatives, ainsi que les réponses que nous y avons apportées. Notre premier rapport sur la partie ordinaire de cette Assemblée concerne les comptes annuels, objet de la première résolution sur laquelle vous aurez à vous prononcer. Pour ce rapport sur les comptes annuels d'Alstom SA, qui sont préparés selon les principes comptables français, nous avons considéré comme point clé de notre audit l'évaluation des titres de participation et des créances rattachées à ces derniers. Nous avons certifié ces comptes sans réserve ni observation et avons par ailleurs procédé aux vérifications dites spécifiques qui portent notamment sur le contenu du rapport sur le gouvernement d'entreprise et qui n'appellent pas de commentaires particuliers de notre part. En ce qui concerne notre rapport sur les comptes consolidés, qui eux sont préparés selon le référentiel IFRS et qui est l'objet de la deuxième résolution, nous avons certifié les comptes consolidés sans réserve et sans observation et avons considéré comme point clé de notre audit les éléments qui comprennent des estimations significatives de la direction, à savoir la comptabilisation du chiffre d'affaires et de la marge sur les contrats à long terme et l'évaluation des litiges et les investigations. Nous avons également émis un rapport spécial sur les conventions réglementées. Nous y indiquons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé, ni de convention conclue déjà approuvée et dont l'exécution se serait poursuivie sur l'exercice. Par ailleurs, PwC, en qualité d'organisme tiers indépendant, a émis un rapport d'assurance modérée sur la vérification de la déclaration consolidée de performance extra-financière. Il n'a pas été relevé d'anomalies significatives quant à la conformité de la déclaration aux dispositions réglementaires ou à la sincérité des informations qui y figurent. Enfin, notre dernier rapport au titre de l'Assemblée ordinaire est le rapport sur les prévisions de bénéfices relatives à l'exercice 2024-2025 et nous avons mis en œuvre les diligences conformément aux normes professionnelles applicables en France et nous ne formulons pas de commentaires particuliers dans ce rapport qui se trouve en page 61 du document d'enregistrement universel. J'en finirai par la partie extraordinaire de cette Assemblée pour laquelle, sur les résolutions 19 et 21 à 30, vous serez appelés à vous prononcer et qui concernent des opérations liées au capital, à savoir opérations sur une éventuelle réduction de capital, des émissions d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et ou suppression du droit préférentiel de souscription, des émissions d'actions ordinaires et ou de valeurs mobilières de la société réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise, des émissions d'actions et ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et réservées à une catégorie de bénéficiaires, et enfin des autorisations d'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. Nous avons établi des rapports dont les numéros de page dans la brochure de convocation sont donnés à l'écran aussi. Voilà. Dans le cadre des délégations ou autorisations à donner au conseil d'administration pour procéder à ces opérations, pour résumer en un mot les conclusions de l'ensemble de ces rapports, nous n'avons pas formulé d'observation sur les modalités de principe qui vous ont été proposées par votre conseil d'administration. Et nous émettrons un rapport complémentaire lors de l'utilisation des délégations, le cas échéant. J'en ai terminé et je vous remercie, mesdames, messieurs les actionnaires, pour votre attention.
Merci beaucoup, Cédric. Merci bien. Nous allons maintenant ouvrir les débats. J'attire votre attention sur le fait que l'associé n'a pas reçu de questions écrites, donc relevant de l'article R225-84 du Code de commerce. Je vais donc désormais donner la parole aux actionnaires. Il y a des hôtesses qui sont présentes dans la salle pour recueillir vos questions que vous pouvez poser oralement ou en les transmettant par écrit à l'aide du formulaire qui vous a été remis en entrant dans la salle. Monsieur, il n'y a pas de numéro, mais voilà.
Oui, bonjour, monsieur le Président. Je voudrais juste avoir une clarification. Si j'ai bien compris, 2023-2024 est une mauvaise année pour Alstom. Des mesures ont été prises en toute urgence, à savoir des cessions, l'émission d'obligations hybrides, une augmentation de capital à 13 euros qui a un impact évidemment sur le cours de l'action, et enfin la séparation du poste de président et celui de directeur général. Alors, si j'ai bien compris, le président directeur général avait un salaire fixe de 950 000 euros avant cette séparation. Aujourd'hui, le directeur général aurait toujours le même salaire fixe de 950 000 euros et à ça auquel s'ajoute celui du président, soit 450 000 euros. Donc, cette nouvelle mesure augmente le salaire de ces postes d'environ 50% pour la société. Est-ce que j'ai bien compris ou je me trompe?
Écoutez, c'est peut-être à Yann, en tant que président du NRC, de répondre à cette question. Mathématiquement, ça a l'air d'être vrai, mais...
Écoutez, sauf qu'il s'agit de deux postes au lieu d'un. Donc, je ne vois pas où est le sens de la comparaison. Et il est normal de rémunérer un directeur général d'un côté et un président de l'autre. Donc, voilà les éléments complémentaires, Monsieur le Président, que je peux apporter. Okay.
Je crois que chacune des rémunérations est cohérente avec le benchmark, et sauf à considérer que le nouveau président n'a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas payé. Réponse identique dans l'autre sens. Autre question. Alors, oui, de l'autre côté, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de numéro là.
Oui, bonjour Madame, Messieurs. Donc, je voulais savoir s'il y avait un espoir de rattraper le retard prévu de 2 ans sur la livraison des rames sur le RERB, je crois de mémoire le MI-20. Et j'aimerais connaître le montant total des pénalités concernant les retards de livraison de matériel sur l'année 2023 pour l'ensemble du groupe et si ce montant va diminuer en 2024. Espérons. Merci.
Alors, merci de la question. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui de commenter contrat par contrat l'ensemble des éléments, d'autant plus que c'est un contrat évidemment qui est géré par la SNCF et la RATP, dont le donneur d'ordre final est Île-de-France. C'est à eux de s'exprimer sur l'état d'avancement du contrat et non pas à nous, donc on ne va pas s'exprimer contrat par contrat. Comme je l'ai dit, nous avons amélioré significativement la tenue des délais. Et ce qui permet d'avoir une meilleure satisfaction client et permet d'avoir d'ailleurs une meilleure génération de cash pendant la seconde partie de l'année. Donc oui, la situation s'améliore et donc globalement, les délais étant mieux tenus, si tant est qu'il devait y avoir des pénalités globalement, et c'est quelque chose qui est toujours complexe, parce que vous savez que quand il y a des retards, c'est jamais univoque, il peut y avoir des causes externes, il peut y avoir des causes partagées entre Alstom et l'opérateur, entre différents éléments, des demandes supplémentaires de l'opérateur. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement complexes et donc pas la peine de rentrer dans la détail. Aujourd'hui, il y a des diminutions, il y a une amélioration de la situation d'une manière globale. Oui.
Oui, bonjour, Monsieur le Président. Monsieur Duchet, actionnaire individuel. Oui, vous avez noté les succès des locomotives Trax qu'on a vu dans la presse également, qui sont, je crois, fabriquées en Allemagne et en Italie. Mais que deviennent les Prisma? Et l'autre question, sur le TGV-M, là, dont j'ai vu un petit film sur le concept qui paraît très intéressant, mais SAFT est en retard. Où en est-on? Merci.
Bon. Alors, je vois que vous êtes bien renseigné. Sur les locomotives, d'abord. Dans la gamme Trax, c'était essentiellement une gamme européenne. Et comme vous le savez peut-être, puisque vous suivez ça de très près, Alstom, l'ancien Alstom, avant l'acquisition de Bombardier, n'avait pas vendu de locomotives en Europe depuis très longtemps. Et donc la gamme Prima avait des extensions effectivement à l'international. On avait vendu en Inde, au Kazakhstan, mais en France en particulier, puisque la situation du fret en France est très mauvaise, comme vous savez, mais en Europe en général, il n'y avait pas eu de vente de Prima européenne. Donc la Prima n'était pas du tout technologiquement à jour pour livrer le marché européen. Et donc oui, nous avons maintenant uniformiser la gamme. Pour ce qui est de l'Europe, ce sont les Trax qui sont donc l'ancienne technologie de Bombardier. Et pour ce qui est du grand international, encore une fois, l'Inde ou là, le Kazakhstan, on continue de vendre des Primax, pour rebaptiser Trax pour faire un même nom, mais ce sont les descendants, si je puis dire, des Primax. En revanche, il n'y a jamais eu, encore une fois, de Primax européenne depuis des années et des années. Alors, sur le TGVM, là aussi, sans rentrer dans le détail du contrat, effectivement, c'est une innovation majeure qui est la présence d'une batterie de traction, parce qu'évidemment, il y a des batteries auxiliaires dans tous les trains, mais là, une batterie de traction capable de faire rouler le train pendant 30-40 km, ce qui lui permettra d'aller dans une voie de desserte en cas de perte de caténaire. Et nous sommes en train de résoudre les problèmes techniques, les uns après les autres, y compris celui-là. Et donc nous sommes en bonne voie d'un point de vue technique sur le train d'une manière générale. Oui, d'autres questions ? Bon, puisqu'il y a une question écrite, l'acquisition de Bombardier a été et est une opération tachée de nombreuses erreurs, euphémismes. Que justifie la reconduite des membres du CA présents dans la salle, présents lors de l'acquisition de Bombardier, dans le CA proposé ? Écoutez, l'acquisition de Bombardier, on ne va pas y revenir, ça a été une opération stratégique majeure. Je continue de penser qu'elle a apporté quelque chose d'extrêmement positif à Alstom en termes de positionnement sur ces marchés. Nous étions un acteur qui était petit. Je vous rappelle un petit peu les débats qu'il y a eu lieu au moment où Alstom Transport est devenu Alstom Group. Que n'a-t-on dit qu'Alstom était trop petit pour survivre, trop centré sur l'Europe du Sud, n'ayant pas la technologie nécessaire, etc., etc. Je crois que l'opération avec Bombardier nous a apporté cette taille critique, marché par marché, qui est aussi indispensable, qui est si indispensable pour avoir un succès durable sur ces marchés. Elle est venue avec ses propres défis, elle est venue avec ses propres difficultés, évidemment. On n'a pas le nier. Ces difficultés sont en train d'être surmontées les unes après les autres, de manière très systématique. Et j'ai rappelé quel était le plan, et chaque année est une année de progrès. Et donc, il me semble qu'il faut continuer dans cette direction-là et qu'il faille augmenter, renforcer les plans afin de bâtir un groupe totalement efficace et qui puisse, et je reconnais ça très volontiers avec vous, créer de la valeur pour ses actionnaires. Oui, monsieur.
Dominique Chauvin, prospectiviste. Depuis le Covid-19, le secteur aérien a retrouvé de son attractivité, et également sur le plan technique, pour deux raisons. D'abord, sa motorisation, et d'autre part, la perception que bientôt, ils auront des carburants d'aviation décarbonés. D'autre part, il y a des ruptures possibles, envisageables maintenant, avec l'électricité pour les avions, en tout cas les courts courriers. Et sur le plan urbain que vous avez évoqué, dans les 10 prochaines années, on peut penser que toutes les voitures vont être électriques. Donc ma question, Monsieur le Président, par rapport au marché un peu garanti que vous avez évoqué, comment vous voyez cette nouvelle concurrence de l'aviation si elle chemine finalement vers une décarbonation importante? Et comment vous préparez-vous à cette, je dirais, nouvelle concurrence?
Alors, quelques éléments. Évidemment, en tant que citoyen, je suis le premier à me réjouir que les modes de mobilité extrêmement polluants que peuvent être l'aérien ou l'automobile se décarbonent. Ça, c'est évident. On peut être que favorable à ce type d'évolution. Le train aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, est de loin le mode de transport le plus décarboné. La qualité du train ne s'arrête pas uniquement, j'allais dire, à sa décarbonation pure. Si vous prenez l'urbain donc, que vous citez, effectivement, les voitures, et on peut l'espérer, deviendront électriques et se décarboneront. Néanmoins, si vous prenez le RER A, c'est l'équivalent au minimum de deux fois quatre voies au milieu de Paris, au minimum. Les flux transportés par l'urbain n'ont rien à voir avec le flux transporté par les voitures. Donc évidemment qu'il y aura une place pour la voiture pour des petits bus, des petits cars, pour les zones non denses. Mais dès qu'on est dans une zone dense, il faut avoir des choses beaucoup plus capacitaires. Et les seuls éléments capacitaires, les seuls moyens de transport capacitaires, c'est le train. Et donc là, aucune ville... D'ailleurs, vous savez, le mouvement en faveur du train dans les villes n'est pas né avec la décarbonation. C'était bien avant les questions de CO2. C'est né il y a une vingtaine d'années, plus bien sûr dans les métropoles européennes, mais au moment où les villes sont devenues émergentes, les villes dans les pays émergents sont devenues des mégalopoles. Bien avant, le problème, c'est pas... D'ailleurs, si vous prenez à Paris, le CO2 émis par les voitures dans Paris, c'est rien par rapport au CO2 émis, par exemple, en Ile-de-France par les voitures. Donc, ce qu'est la ville, c'est vraiment le trafic. Après, est-ce que l'intercité, là aussi, le train, si vous comparez à une voiture, pas tant que ça, j'allais dire, concurrent de l'avion, et l'avion, comme vous le savez, sur le moyen long courrier, n'a pas vraiment de solution de décarbonation. Sur nos segments, le train a aussi l'avantage, là aussi, d'être beaucoup plus capacitaire. Quand vous faites un Paris-Lyon, on est en train, par exemple, de faire passer la fréquence de 13 à 16 trains par heure sur un Paris-Lyon. Bon, c'est évidemment des fréquences qui sont inatteignables par l'avion. Et d'ailleurs, même les pays qui ont pas mal d'avions et qui ont des aéroports se tournent vers le train pour désengorger les aéroports. Parce que pour un avion, faire un décollage 300 km et atterrir est une utilisation assez inefficace des aéroports. Donc, je n'ai pas du tout d'inquiétude là-dessus. Bien au contraire, je trouve que c'est très bien que tous les modes de transport se décarbonent. Mais je n'ai aucune espèce d'inquiétude sur la place du train à l'avenir, même si, j'allais dire, les autres modes se sont décarbonés.
Bonjour, Monsieur le Président. Jean Richard, actionnaire individuel. Comme beaucoup, on a été secoué par votre profit warning, alors que, quand on est actionnaire depuis très longtemps, on pensait quand même que tout allait bien, surtout qu'on lisait partout que vous aviez 5 ans, vous avez confirmé d'ailleurs, de matériel en commande. Quelle entreprise ? Il y en a quelques-unes qui ont tant de commandes de projets comme ça, vous l'aviez, la qualité de vos travaux, c'était bien, et tac, il nous tombe ça sur le coin du nez. Vous n'en avez pas tellement parlé, à part la question que là. Moi, je me demande quand même tout ce que vous nous dites, si ça va vraiment arriver à régler le problème d'Alstom. Bon, je reconnais que le problème de l'inflation... Encore que ça me casse un peu les pieds toujours d'entendre le problème de l'inflation. Vu mon âge, j'ai connu les inflations à 10-12%, pour ne pas dire plus. Là, 3-4%, c'est pas pareil. Bon, c'est plus que zéro, c'est sûr. C'est sûr aussi qu'il y a eu le problème de Bombardier. Je reconnais que Bombardier était une affaire à ne pas laisser passer. Mais enfin, si vous la payez beaucoup plus cher que ce qu'elle mérite, ça pose quand même un problème. Et il me semble que le dernier des problèmes, je vais m'arrêter là, c'est que les contrats que Bombardier avait fait, donc que vous avez repris, étaient déficitaires, avec une marge très faible. Bon sang, vous avez des analystes, ils ont dû vous prévenir, alors donc vous ne deviez pas être pris de court par cette histoire Bombardier. Que vous ayez été pris de court par l'inflation relative, je comprends. Mais Bombardier, vous avez eu tout le temps d'analyser. Alors, je voudrais savoir si, oui ou non, vous allez, dans l'avenir, régler vos problèmes de gouvernance d'une manière correcte. La presse en parle de ça. Hein. Problème de gouvernance et gestion. Enfin, pas maintenant, mais il y a quelques mois. Est-ce que ça va être réglé et qu'on va pouvoir à nouveau faire confiance à votre société? Merci, monsieur.
Non, alors, je comprends tout à fait vos remarques. Il ne me semble pas avoir évoqué particulièrement le problème de l'inflation. Et je n'ai pas cherché des excuses, effectivement, à la situation à laquelle nous avons dû faire face cet automne. Mais je rappelle quelques petits points. Effectivement, la question de Bombardier a été faite à un moment où est arrivé un certain nombre de vents contraires en termes macroéconomiques, en termes géopolitiques. Il faut rappeler ici le Covid, il faut rappeler ici la guerre en Ukraine qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement, qui a créé des goulots d'étranglement. Il faut rappeler effectivement ici l'inflation qui était certes... On vit nous aussi dans un pays, dans beaucoup de pays, avec l'inflation. Mais il y a une chose que de vivre de manière stable avec l'inflation et une autre que d'avoir une inflation qui arrive de manière extrêmement brutale et non prévue. Donc je ne cherche pas des excuses là-dessus. Il y a eu un grand nombre de facteurs externes négatifs. Et d'ailleurs, on parle par exemple aussi, on a oublié la crise des composants électroniques. Bon, beaucoup des industries, et je le disais tout à l'heure, quand nous on a augmenté de 40% notre production, beaucoup des industries ont dû arrêter leur chaîne à cause des composants électriques. Nous n'avons pas dû le faire. Augmenter de 40%, vous entendez tous les jours l'industrie de défense expliquer qu'elle ne peut pas augmenter ses cadences, l'aéronautique expliquer qu'ils ne peuvent pas augmenter leurs cadences, etc. Donc il y a un environnement externe qui est effectivement peu favorable. Mais ceci étant dit, vous avez entièrement raison. Nous avons mis un plan de marche. Vous remarquez quand même que la marge opérationnelle augmente année après année, ce qui veut dire que le mix de nos projets continue d'augmenter. Simplement, il y a eu cet accident, et on en a quand même beaucoup parlé, et je suis prêt à y reparler, un accident de génération de trésorerie lié à un problème d'endettement qui était trop élevé à un moment donné. Donc oui, il faut qu'on améliore la gouvernance, oui, il faut qu'on améliore nos plans d'action. Je ne peux être que d'accord avec ce que vous dites. Je crois qu'on a tiré les leçons de cet incident. La vie, vous savez tous très bien, la vie est plus compliquée que tout est blanc, tout est noir, mais néanmoins, il faut tirer absolument les leçons de ce qui a été fait pour qu'on puisse être devant vous et que vous puissiez nous faire confiance devant vous. Et c'est les actions que nous avons prises. Vous pouvez reconnaître qu'en 6 mois, énormément d'actions ont été prises, puisque la crise est apparue, si on peut appeler ça une crise, l'événement, la difficulté, en octobre, et je suis devant vous en mai, et comme vous l'avez vous-même, la presse, je n'ai pas beaucoup commenté la presse, mais la presse elle-même a évolué dans ces 6 mois, et c'est là où vous dites tout n'était pas blanc et tout n'était pas noir, etc. Mais en 6 mois, le plan de désendettement a été mis en œuvre, le plan de cession a été mis en œuvre, le changement de gouvernance à la fois interne, ça c'est très important, les mesures que Bernard met en place pour améliorer la gestion du cash, la projection du cash, etc. C'est important, la gouvernance aussi globale du groupe avec la dissociation des fonctions, tout ça a été mis en place. Donc un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre de manière rapide et elles vont porter les fruits, j'en suis sûr. Excuse-moi. Vous savez, il y a des processus précisément, et le monsieur l'a rappelé, de gouvernance. Je crois qu'il faut suivre la gouvernance. Et c'est la gouvernance qui décide des mesures à prendre pour l'avenir. Il faut regarder l'avenir. Je ne suis pas sûr que la question des sanctions est une question qui soit centrale aujourd'hui. On a changé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, parce qu'il faut équilibrer. On a modifié les critères de bonus de tous les managers pour les rendre plus sévères. Quel autre groupe a modifié des critères d'affectation des bonus d'une année pour les rendre plus sévères? Je n'en connais pas. Beaucoup de groupes, au moment du Covid, au moment des chocs externes, ont au contraire modifié leurs critères d'affectation des bonus pour permettre aux employés, qui étaient par ailleurs méritants certainement, d'obtenir ces bonus alors même que les objectifs n'avaient pas été atteints. Nous avons fait le contraire, c'est-à-dire que si nous n'avions pas modifié les critères de bonus, le bonus de l'ensemble, je ne parle pas évidemment de mon cas, qui est le cadet de mes soucis, mais des 18 000 employés d'Alstom auraient probablement été le double de ce qu'il a été aujourd'hui. Donc, je crois que nous avons pris des mesures et je crois que les employés d'Alstom qui ont travaillé extrêmement dur pendant cette période, ont pris leurs responsabilités. Je crois que le terme sanction n'est pas adéquat, mais il y a eu une certaine responsabilité qui a été prise par tout le monde, la gouvernance a joué. Donc je crois qu'il faut équilibrer également ce discours.
Bonjour. J'ai plusieurs points. Déjà, je voudrais vous remercier sur la parité que vous avez faite pour l'augmentation de capital. Vous avez fait 1 pour 5. C'est très bien parce que souvent, les banques, ils font des parités compliqué pour faire des frais à tout le monde et les petits actionnaires sont les premiers à payer ces frais. Donc 1 pour 5, c'était le minimum, c'est très bien. Donc on a demandé aux petits actionnaires et à tous les actionnaires de faire un effort. Moi, j'aurais bien voulu voir que Monsieur de la Bruyère nous montre que la direction et tout ça a fait un effort également au niveau de la rémunération. Parce qu'on nous a fait tout un blabla, là, et c'est comme l'an dernier, on sait toujours pas combien exactement la direction, elle touche. Alors on nous renvoie au document universel que personne n'a, donc on sait rien du tout. Alors j'aurais bien voulu voir que la direction participait à l'effort. Deuxième point, l'hydrogène. Alors, vous montrez l'hydrogène. Bon, je ne sais pas exactement si ça rapporte quelque chose. Depuis un certain temps, il y a beaucoup de nuages noirs qui tombent sur l'hydrogène. Il y a l'Académie française qui a dit que c'était un non-sens. Jankovici, qui a été interviewé à l'Assemblée, il a dit la même chose. Aujourd'hui, il y a Total et Engie qui viennent de dire qu'ils réduisaient considérablement leurs prévisions en matière d'hydrogène. Ça tombe dru tous les jours sur l'hydrogène. Pour moi, l'hydrogène, c'est un non-sens économique et économique et industriel et énergétique. Après, j'ai un point pour la trace de CO2. Donc, vous nous parlez toujours du scope 1, scope 2. Donc, scope 1, scope 2, ça ne représente rien du tout. Vous l'avez dit, 1%. Donc, le scope 3, ça va être le scope 1, 2 de vos fournisseurs, de vos sous-traitants. Et ça va remonter chez vous parce que le sous-traitant, il va dire, moi, je change les matériaux, je change mes méthodes. Et ça va coûter une fortune. Et ça va remonter chez vous dans les coûts. Alors, comment vous intégrez ça? Et enfin, qu'est-ce que fait Alstom pour les petits actionnaires des clubs, des réunions ou d'information? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ou il y a quelque chose de fait? Merci.
Merci beaucoup. Alors oui, plusieurs questions d'ordre assez différent. Bon, sur l'augmentation de capital, je prends acte. 1 pour 5, effectivement, c'était un bon ratio. Participation à l'effort, je crois que j'y ai répondu. Je crois qu'encore une fois, les bonus de l'ensemble de 18 000 employés d'Alstom ont été significativement impactés par ce qui s'est passé. Et c'est évidemment le cas, de manière proportionnellement plus importante, évidemment, de la direction générale. Sur l'hydrogène, attention au mode. Moi, je fais longtemps que je suis dans l'industrie ferroviaire, dans l'industrie du power. Des modes, j'en ai vu. Je me rappelle d'avoir été à des séminaires de Total il y a quelques années qui expliquaient que jamais le solaire ne pourrait être une solution à court terme ou à moyen terme ou à long terme aux problèmes énergétiques parce que les panneaux solaires coûtaient 10 fois plus cher et que, évidemment, qu'ils ne seraient jamais rentables. Moi, je dis juste, attention, l'hydrogène a effectivement des caractéristiques, il faut les connaître. Je ne connais pas d'autres solutions pour décarboner sur des longues distances parce que seul l'hydrogène peut être transporté comme vecteur d'énergie. L'hydrogène, ce n'est pas de l'énergie, c'est un vecteur d'énergie. Ça permet de transporter l'énergie. Alors oui, pour produire de l'hydrogène, c'est peut-être coûteux. En même temps, on peut le produire de manière intermittente et donc c'est assez bien couplé avec des énergies renouvelables qui elles-mêmes sont intermittentes. Vous savez qu'on parle toujours de la crise énergétique, etc. Mais la réalité est que il y a maintenant des zones, il y a toujours eu des zones, il y a des zones pendant lesquelles l'électricité, le coût de l'électricité, le prix de l'électricité est négatif. Donc il faut prendre tout ça en compte. Et puis j'allais dire, prenant un peu de recul, soyons modestes. L'Europe est en train de se rattraper, mais a loupé le virage des batteries. Et maintenant, nous devrons pédaler tous autant que nous sommes en tant que filière industrielle, automobile, filière des batteries, pour rattraper le retard européen. Un certain nombre de nos partenaires en Chine, au Japon, investissent des milliards à l'heure où on se parle sur l'hydrogène. Ne nous réveillons pas dans 10 ans avec la même gueule de bois que celle que nous avons sur les batteries, en disant « Ouh là là, ils ont pris de l'avance, ils ont investi, et maintenant on ne peut pas, c'est trop tard, il faut rattraper, etc. » Moi, ce que je constate, effectivement, c'est que l'industrie européenne a plutôt du retard sur le développement de ce nombre de technologies hydrogène, qu'effectivement, ce n'est pas une solution mature aujourd'hui, ce n'est pas une solution qui arrive avec les coûts nécessaires, mais soyons un tout petit peu modestes dans les prévisions, Beaucoup se sont trompés par le passé et ne nous bouchons pas toutes les portes. C'est une solution qui me semble tout à fait intéressante. Sur les petits actionnaires, donc Martin Vaujour qui vous a décrit la stratégie de développement durable et évidemment à votre écoute pour tout ce qui est animation des petits actionnaires. Je crois que vous avez un numéro de téléphone, Bernard, si tu peux en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'on fait pour les petits actionnaires.
Non, je voudrais en profiter pour dire que je suis un petit peu déçu que vous ne lisiez pas le rapport annuel, qui est plein d'informations très importantes, y compris pour les petits actionnaires, comme vous dites. Si vous pensez qu'il y a des choses particulières qu'on doit mettre en place en plus pour mieux vous informer, on est bien sûr à votre écoute. Et donc, il y a un numéro de téléphone où la direction des relations avec les investisseurs peut vous renseigner et, le cas échéant, organiser des visites de site aussi.
Alors, en fait, vous aviez abordé un dernier point, mais je vais être assez rapide là-dessus, sur le scope 1, 2 et 3. Vous avez entièrement raison, c'est chez nous le scope 3 qui est le plus important. Mais là où vous n'avez pas l'ensemble du paysage, c'est que ce n'est pas tellement les fournisseurs, c'est un point, mais c'est surtout le scope 3 en tant qu'utilisateur de nos produits. Et là, c'est tout ce qu'on fait pour réduire l'utilisation de l'énergie. Et effectivement, c'est aussi beaucoup influencé par le mix énergétique de nos clients. C'est-à-dire que un scope 3 en France, SNCF, industrie, électricité nucléaire, est très différent d'un scope 3 en Allemagne, dont le mix énergétique n'est pas le même, ou en Inde, dont le mix énergétique n'est pas le même. Et si les fournisseurs doivent augmenter leur prix à cause de ça, ce qui est, encore une fois, c'est tout à fait souhaitable de réduire les émissions, eh bien, ces critères-là doivent être pris en compte, et la plupart des opérateurs, maintenant, prennent en compte des critères environnementaux pour les propres appels d'offres. Et donc, quand nous répondrons aux appels d'offres, nous bénéficierons du fait qu'il y ait une réduction des émissions par nos fournisseurs dans les critères d'appréciation des opérateurs.
Dominique Chauvin, prospectiviste à nouveau. Je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit sur les batteries. La France est obligée de pédaler pour rattraper le retard. Je voudrais simplement vous rappeler que la France est partie très tôt, peut-être trop tôt, et on avait avec Renault-Nissan une position de leader mondial sur les batteries, avec 50% de part de marché mondial à l'époque. Et malheureusement, le gouvernement n'a pas suivi, n'a pas soutenu, et donc ces acteurs industriels ont été obligés de lever le pied. Pourquoi ? Parce que la pensée unique en France, à cette époque, était l'hybride rechargeable. Et je me suis permis d'écrire une tribune dans Le Monde en octobre 2018 qui était titrée « L'hybride rechargeable est un contresens prospectif ». Et la batterie actuellement se développe, elle va continuer à se développer. Je considère qu'on est encore à l'âge de pierre de la batterie. Et des avions électriques, même si c'est prématuré, ça fait partie du scope. Et on pourra imaginer d'abord des courts courriers, mais ensuite au-delà. Et d'ailleurs, les taxis volants qui vont fonctionner pour les Jeux Olympiques ne peuvent être que électriques à cause de la puissance au décollage.
Donc, écoutez, merci de votre point. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut être très modeste dans les prévisions et qu'il est difficile de prévoir. Et globalement, d'accord avec moi aussi sur le constat que si on met tous ces œufs dans le même panier, ça peut être compliqué si on a loupé celui qui se révélera être le bon.
La conclusion n'est pas simple, il faut se méfier des oukases du gouvernement.
Ah, ça, je ne me suis pas permis de commenter cette conclusion. D'autres questions ? Peut-être une dernière question ? Je crois qu'on est à peu près au temps imparti au débat.
Oui, bonjour, monsieur le président. Du coup, en fait, j'ai une question sur les difficultés de la montée de production qui ont été mentionnés l'année dernière pour expliquer en partie l'accumulation du stock et la dégradation du cash flow. Et du coup, je voudrais savoir où on en est à cette année. Est-ce que ces difficultés ont été résolues? Et on en est où au niveau de la montée de production? Et quelles sont les perspectives pour les années prochaines?
Alors, merci beaucoup. Merci de cette question. Alors, deux choses. Comme vous l'avez vu, au second semestre, nous avons monté en puissance, et nous avons d'ailleurs livré beaucoup plus de trains que ce que nous en avons produit, c'est-à-dire que nous avons épuisé, limité le niveau des stocks, c'est-à-dire qu'au lieu d'accumuler, on a un peu vidé le réservoir, et ça a été très positif, et c'est ça qui explique pourquoi on a généré tant de cash en deuxième semestre. Cette montée en puissance s'arrêtait cette année, c'est-à-dire que pour les années qui viennent, on est plutôt sur un plateau en termes de livraison de voitures, donc nous n'avons pas à réaugmenter la capacité globale de production. Maintenant, vous connaissez notre activité, c'est une activité qui est à projet à la fois long, mais en même temps beaucoup plus court que dans d'autres industries, c'est pas la voiture, etc. Donc on passe notre temps à monter en gamme et à baisser en gamme, donc il y a des projets qui montent en puissance, d'autres qui descendent, et ça peut créer des montées et des baisses de stock, mais d'un point de vue global, encore une fois, la capacité de production est maintenant au niveau où elle doit être dans les prochaines années, il n'y a plus nécessité de monter en global. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup pour ce temps de questions.
S'il vous plaît. J'avais encore une
allez-y, question. Allez-y, mais
merci.
Pas abuser du temps de tout le monde.
Ça sera bref avant de voter. Il y a une chose que je voudrais me faire repréciser.
Oui.
Tout à l'heure, la question a été posée à la monsieur notre référent de savoir comment étaient articulées les rémunérations du directeur général et du président. J'ai entendu, mais je pense que j'ai mal entendu, que la rémunération du président s'ajoutait à celle inchangée du directeur général. Dans mon esprit, s'il y a dissociation des deux fonctions, l'un prend par rapport à l'autre, même si on peut admettre qu'avec différentes questions de loi du marché, etc.
Et je ne comprends pas. Non, alors, je ne vais pas, parce qu'à votre dernière question, je vais répondre de manière... mais la rémunération du président a été évaluée en fonction d'un critère de référence, d'un panier de référence des présidents des sociétés de même taille, même style qu'Alstom. Et avant, mais justement, celle du PDG ne tenait pas vraiment compte du fait qu'il y avait une simple association des fonctions. C'est-à-dire que on a pris la référence des directeurs généraux des boîtes, que ce soit des directeurs ou des PDG. Il n'y a pas de différence de rémunération sur le marché entre les gens qui sont DG ou PDG. Il n'y a pas de différence sous le contrôle de Yann. Bon, on va peut-être pas. Allez-y, mais il faut qu'on passe. Est-ce qu'on va pas passer là ? Yann, si tu diras un mot.
Je vais rajouter juste que, effectivement, le conseil d'administration, via son comité des rémunérations, procède chaque année à une comparaison sur des entreprises comparables, c'est-à-dire des entreprises industrielles, françaises, pour l'essentiel. On ne se réfère pas, bien entendu, à des exemples américains ou même britanniques qui, comme vous le savez, sont à des montants de rémunération beaucoup plus élevés. Donc, procède à un examen et se compare à ce niveau de rémunération d'entreprises comparables. Donc, c'est ce que nous avons fait à nouveau cette année. Et ce que je puis vous dire avec la plus grande sincérité possible, c'est que les niveaux de rémunération que nous vous proposons sont ceux qui résultent de cette comparaison, à la fois pour le président et pour le directeur général. Alors maintenant, pour revenir sur ce que disait Henri, à quoi comparons-nous les rémunérations anciennement du président-directeur général et maintenant du directeur général ? À des rémunérations de directeur général. Pour une simple et bonne raison que, comme vous le savez maintenant, et c'est d'ailleurs le modèle que nous rejoignons maintenant, l'essentiel des entreprises sont dissociées. Donc ce que nous comparions dans le passé comme pour établir la rémunération du président directeur général, c'était pour l'essentiel des rémunérations de directeur général et non pas de président directeur général, puisque maintenant il y a peu de président directeur général, comme vous le savez, dans les entreprises cotées françaises. Donc nous appliquons ce même critère et nous nous retrouvons maintenant à comparer des rémunérations d'un directeur général avec des rémunérations d'autres directeurs généraux. Et à nouveau, je puis vous indiquer, et je pense qu'on le détaille dans le rapport, vous avez l'ensemble du périmètre auquel nous nous sommes comparés qui est détaillé dans le rapport, que j'espère vous lirez un jour, et donc qui vous donne exactement en détail la manière dont nous nous situons dans cette comparaison, et nous avons procédé de même pour le président du conseil d'administration. Voilà donc les précisions que je voulais apporter et qui sont en ligne avec ce que Henri vous a déjà expliqué. Merci.
Merci beaucoup, Yann. Maintenant, nous allons procéder donc au vote. Donc, je vais passer la parole à Emmanuel Petrovic pour cette partie de l'Assemblée.
Merci, Monsieur le Président. Nous allons tout d'abord vous présenter la procédure de vote électronique.
Mesdames et messieurs les actionnaires, le boîtier qui vous a été remis à l'issue de l'émargement est strictement personnel. Le nombre de voix que vous détenez et ou représentez est chargé dans le boîtier et affiché sur son écran. Vous n'aurez à utiliser que les touches vertes, jaunes et rouges. La touche verte correspond à un vote pour. La touche jaune correspond à un vote abstention. La touche rouge correspond à un vote contre. Après la lecture de chacune des résolutions, il sera immédiatement procédé à son vote et il sera déclaré « Le vote est ouvert ». À cet instant, vous apercevrez sur l'écran un rectangle vous indiquant le compte à rebours des secondes dont vous disposez pour voter. Lorsque le compte à rebours sera achevé, il sera déclaré « Le scrutin est clos » et il ne vous sera alors plus possible de voter. L'affichage des résultats s'effectuera sur l'écran de projection quelques instants après la clôture du scrutin. Dernière précision, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables pendant la durée du vote et de restituer les boîtiers à la sortie de la salle.
Comme indiqué en début de séance, le quorum requis pour cette Assemblée générale est de 20% pour la partie ordinaire et de 25% pour la partie extraordinaire. L'état définitif de la feuille de présence fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté à distance détiennent 291 168 834 actions ayant le droit de vote, soit 63,14% des actions ayant le droit de vote. Le quorum requis est donc atteint. Les résolutions devront être adoptées à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou votant à distance pour la partie ordinaire et à la majorité des deux tiers pour la partie extraordinaire. Je vous propose de présenter le titre résumant chaque résolution sous réserve que personne n'en demande la lecture intégrale. Je constate qu'il n'y a pas d'objection. Je vais donc vous présenter les résolutions et vous invite à voter à la suite de chacune d'elles après que j'ai déclaré le vote est ouvert. Première résolution à caractère ordinaire. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2024. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Deuxième résolution à caractère ordinaire, approbation des comptes consolidés de l'exercice clos, le 31 mars 2024. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Troisième résolution à caractère ordinaire, affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Quatrième résolution à caractère ordinaire. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées constate de l'absence de conventions nouvelles. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Cinquième résolution à caractère ordinaire. Renouvellement de caisse de la Caisse de dépôt et de placement du Québec en qualité d'administrateur. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Sixième résolution à caractère ordinaire, ratification de la cooptation de M. Philippe Petit-Collin en qualité d'administrateur. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Septième résolution à caractère ordinaire, nomination de Monsieur Philippe Petit-Collin en qualité d'administrateur. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Huitième résolution à caractère ordinaire, nomination de Monsieur Jay Walder en qualité d'administrateur. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Neuvième résolution à caractère ordinaire, nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Dixième résolution à caractère ordinaire, nomination du cabinet Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Onzième résolution à caractère ordinaire, approbation de l'aménagement apporté à la politique de rémunération 2023-2024 du président directeur général. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Douzième résolution à caractère ordinaire, approbation de l'aménagement apporté à la politique de rémunération 2023-2024 des membres du conseil d'administration. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Treizième résolution à caractère ordinaire. Approbation de la politique de rémunération 2024-2025 du directeur général. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Quatorzième résolution à caractère ordinaire, approbation de la politique de rémunération 2024-2025 du président du conseil d'administration. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Quinzième résolution à caractère ordinaire, approbation de la politique de rémunération 2024-2025 des membres du conseil d'administration. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Seizième résolution à caractère ordinaire, approbation des informations visées au 1 de l'article L2219 du Code de commerce, rapport sur les rémunérations. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 17e résolution à caractère ordinaire, approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Henri Poupart-Lafarge, président directeur général. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 18e résolution à caractère ordinaire, autorisation du conseil d'administration, programme de rachat d'actions. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 19e résolution à caractère extraordinaire. Autorisation du conseil d'administration, réduction du capital par annulation des actions autodétenues. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 20e résolution à caractère extraordinaire. Délégation au conseil d'administration sur les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et ou primes. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 21e résolution à caractère extraordinaire. Délégation au conseil d'administration s'agissant d'une augmentation de capital par émission d'actions et ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 22e résolution à caractère extraordinaire. Délégation au conseil d'administration s'agissant d'augmentation de capital par émission d'actions et ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exception des offres visées au 1 de l'article L411-2 du Code monétaire et financier. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Et la résolution est adoptée. 23e résolution à caractère extraordinaire. Délégation au conseil d'administration s'agissant des augmentations de capital par émission d'actions et ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L411-2 du Code monétaire et financier. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 24e résolution à caractère extraordinaire. Autorisation au conseil d'administration quant à la fixation du prix en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite de 10% du capital par an. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 25e résolution à caractère extraordinaire. Délégation au conseil d'administration s'agissant d'une augmentation de capital par émission d'actions et ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 26e résolution à caractère extraordinaire. Délégation au conseil d'administration s'agissant d'une augmentation de capital social réservée à une catégorie de bénéficiaires avec suppression du droit préférentiel de souscription. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 27e résolution à caractère extraordinaire. Autorisation au conseil d'administration s'agissant d'augmentation de montant des émissions. Option de surallocation. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 28e résolution à caractère extraordinaire. Délégation au conseil d'administration s'agissant d'une augmentation de capital par émission d'actions et ou de valeurs mobilières dans la limite de 10% du capital en rémunération d'apport en nature. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 29e résolution à caractère extraordinaire. Délégation au conseil d'administration s'agissant d'une augmentation de capital par émission d'actions à la suite de l'émission par des filiales de la société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 30e résolution à caractère extraordinaire, autorisation au conseil d'administration, attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 31e résolution à caractère extraordinaire, modification statutaire, relèvement du pourcentage d'actions ou de droits de vote déclenchant une déclaration de franchissement de seuil statutaire. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 32e résolution à caractère extraordinaire, modification statutaire, relèvement de l'âge du président du conseil d'administration. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 33e résolution à caractère ordinaire, pouvoir pour les formalités, le vote est ouvert. Le vote est clos. Et la résolution est adoptée. Merci.
Merci beaucoup. Je remercie notre secrétaire. Et je vous rappelle que des hôtesses sont à votre disposition dans le hall d'accueil pour recueillir les boîtiers de vote qui vous ont été remis et qui, je le rappelle encore, ne peuvent pas avoir d'autre utilisation que celle du vote électronique. Avant de lever cette séance, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence aujourd'hui et votre confiance. Merci beaucoup.